Nous sommes le jeudi 8 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, l'enquête annuelle du Secours Populaire sur la pauvreté et la précarité en France. Les chiffres sont stables, mais le sentiment de pauvreté lui progresse, notamment chez les enfants. Reportage dans un instant. Le plan de Bruxelles pour contrer la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Les producteurs et les entreprises du secteur de l'énergie vont devoir mettre la main à la poche. Alors, s'agira-t-il d'une taxe ? Non, plutôt d'une contribution temporaire, dit la Commission européenne. Pendant ce temps, vous l'entendrez, la Russie, elle, se rapproche de la Chine sur fond de guerre en Ukraine. Moscou compte plus que jamais sur l'Asie pour amortir les sanctions européennes. Et puis, boissons sucrées, fast-food, manque d'activité physique, cocktail diabolique qui aboutit parfois à la maladie du soda, qu'on appelle aussi la maladie du foie gras. Explication dans ce journal de Céline Géraud. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France compte officiellement un peu plus de 9 millions de pauvres pour une personne seule. Cela correspond à un revenu mensuel net inférieur à 1102 euros par mois selon l'INSEE. Il y a la réalité des chiffres et il y a le sentiment de pauvreté variable d'un individu à l'autre, mais en progression, phénomène aggravé bien sûr par la crise énergétique.
Et c'est d'ailleurs l'un des constats dressés par l'enquête annuelle du Secours Populaire et de l'Institut Ipsos. La pauvreté touche de plus en plus les enfants.
Et oui, et cette pauvreté affichée ou que l'on tente de masquer tant bien que mal, les enfants ont appris à l'identifier, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus concernés directement ou indirectement. Caroline Baudry est allée à leur rencontre à Arpajon, en région parisienne, une ville située dans la moyenne, c'est-à-dire ni riche ni pauvre. Reportage.
Par exemple, ils mangent pas tout le temps des trucs bien à la maison. Souvent la même chose, parce qu'ils n'ont pas de sous.
Ces phrases de certains de leurs camarades, Lucas et Kylian, croisés sur leur trottinette, les entendent plus qu'avant. Ils viennent d'entrer en 5e et en 4e.
J'en connais un. Sa mère, elle a pas assez pour s'acheter toujours des vêtements, quoi.
Pour lui acheter des vêtements ?
Ouais. Bah, il me dit comme quoi ils sont pas partis en vacances, quoi. En vrai, moi aussi, des fois, ça m'arrive de ne pas partir en vacances.
Devant eux, Martin, 13 ans, passe à vélo, t-shirt de marque sur le dos. Ce qui le frappe, ce sont les gens qui vivent dans la rue.
À tout moment, on peut devenir comme eux. Oui, bien sûr. Si je ne travaille pas bien à l'école, je peux me retrouver dans leur cas. Et ça serait bien qu'on les aide.
Gabriel, lui, n'a que 9 ans. En sortant du conservatoire de la petite commune, il raconte voir des gens qui manquent d'argent.
Oui, souvent. Moi, je me dis que la vie peut être injuste pour eux.
Comme un tiers des enfants, selon le sondage, il estime pouvoir aider à sa façon, comme ce don d'affaires à une écolière.
Ils avaient un petit appartement, ils avaient 3 lits, ils devaient dormir dans la même chambre. On leur avait apporté des nouveaux cahiers.
Ma mère est parfois à découvert, ajoute-t-il. Elle confie se serrer la ceinture pour offrir des cours de flûte à son garçon. Arpajon, Caroline Baudry, Europe 1.
Et vous pouvez retrouver tous les détails de cette enquête sur le site du Secours Populaire.
À l'instant, Anissa Haddadi nous annonçait la levée de toutes les vigilances aux orages. Ce matin, on apprend par l'agence France Presse que 66 000 foyers ont été privés d'électricité dans le Var cette nuit. Il en reste encore 14 000 privés de courant ce matin à l'aube, selon les pompiers varois. On passe à la crise énergétique et la récession qui menace ne devrait pas arranger le pouvoir d'achat des Français et plus généralement des Européens. Bruxelles dévoile son plan anti-inflation.
Oui, il sera débattu demain lors d'un conseil des ministres extraordinaire, conseil des ministres européens de l'énergie. 5 mesures sont sur la table. Laura Van Lerberg, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. L'idée, c'est d'empêcher les prix de l'électricité de flamber.
Oui, exactement. La Commission veut agir sur le prix de l'électricité. Elle veut le plafonner à 200 euros par mégawattheure, mais uniquement l'électricité produite à bas coût par des entreprises non gazières, les parcs éoliens, les centrales nucléaires ou encore les centrales à charbon. La Commission appelle aussi à prélever une partie des revenus des entreprises de combustibles fossiles. Objectif, réorienter ses bénéfices pour soutenir les personnes et les entreprises vulnérables. Ensuite, elle veut agir sur le gaz russe, plafonner son prix pour ainsi réduire les revenus de la Russie, comme l'a précisé Ursula von der Leyen.
Nous savons que nos sanctions font très mal à l'économie russe, avec des conséquences très négatives, mais Poutine arrive à compenser un peu avec les revenus énergétiques. On veut donc couper les ressources que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce. Nos efforts ont déjà payé. Au début de la guerre, nous importions 40% de gaz russe. Aujourd'hui, nous en sommes à 9% seulement.
Et cela passe aussi par des économies d'énergie, réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe, des mesures qui seront débattues vendredi par les ministres de l'énergie. lors d'un conseil extraordinaire.
Laura Vandenberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et pendant ce temps, la Russie, elle, continue de se rapprocher de la Chine. C'est un événement, le numéro 1 chinois, Xi Jinping, va rencontrer Vladimir Poutine.
Une rencontre prévue la semaine prochaine à l'occasion d'un sommet régional à Samarcande, en Ouzbékistan. Premier face-à-face entre les deux hommes depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est un véritable front sino-russe qui est peut-être en train de se constituer. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine.
Tout un symbole pour sa première visite à l'étranger depuis 2020 et le début de la pandémie. Xi Jinping va retrouver Vladimir Poutine. Rencontre prévue à Samarcande, en Ouzbékistan, les 15 et 16 septembre prochains. Première retrouvaille entre les deux hommes depuis les Jeux Olympiques de Pékin en février dernier. C'était juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et l'occasion d'afficher l'unité des deux pays face à l'Occident et notamment face aux États-Unis et à l'OTAN. Sergueï Katerine est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie.
La Russie se repositionne actuellement. Elle est en train de se tourner résolument vers l'Est. Elle se tourne vers la région Asie-Pacifique et ses voisins du Sud. Bien évidemment, la Russie renforce sa coopération avec les pays concernés.
À commencer par la Chine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Pékin a considérablement augmenté ses importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. Et cette semaine, le géant Gazprom a annoncé que la Chine réglerait dorénavant ses contrats en roubles et en yuan, et non plus en dollars. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Retour en France à propos d'une maladie qui touche entre 500 000 et 1 million de personnes, la maladie du soda.
Oui, on l'appelle aussi la maladie du foie gras. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans les cellules du foie. Un colloque lui est consacré aujourd'hui à l'Institut Pasteur. Il y a urgence, hein, Céline Géraud. La maladie du soda se développe de façon inquiétante.
Oui, entre 25 et 30% de la population mondiale serait concernée par ce syndrome métabolique qui cible en majorité les personnes diabétiques, en surpoids ou obèses. La malbouffe, l'addiction au sucre et la sédentarité entraînent, dans les cas les plus graves, des lésions identiques à celles causées par une cirrhose. Mais le premier stade, c'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Laurence Serfati, professeur d'hépatologie au CHU de Strasbourg.
Si on prend le foie gras, l'âge moyen, c'est 40-45 ans, plutôt des hommes. Maintenant, si on veut des patients avec des maladies plus avancées, c'est plutôt 55-60 ans.
Et ce qui rend cette maladie encore plus redoutable, c'est qu'elle est silencieuse. Aucun symptôme. La plupart des patients la prennent à la suite d'une simple prise de sang. Aux États-Unis, c'est désormais la première cause de grève du foie. En France, c'est l'obésité galopante chez les plus jeunes qui inquiète.
Donc ça, c'est vraiment un problème parce que c'est une maladie qui se développe très lentement. Quand on a des enfants obèses, ça veut dire qu'on va voir arriver des sujets jeunes avec des maladies déjà avancées.
Actuellement, seule une perte de poids conséquente et une meilleure hygiène de vie agissent sur la maladie. Mais selon nos informations, le premier traitement spécifique pourrait arriver sur le marché d'ici 2024.
Céline Géraud, chef du service économie d'Europe 1.
Le football, Marseille rate son entrée en Ligue des Champions.
Et oui, les Marseillais réduits à 10 s'inclinent 2-0 sur la pelouse de Tottenham. L'OM n'aura tenu qu'une période, Jean-François Pérez.
Oui, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps n'avait été donné que depuis 2 minutes. L'OM était en confiance après un premier acte très prometteur. Trop peut-être. Un ballon de contre. Kane qui ouvre pour le Coréen Son, Bemba dernier défenseur qui tacle le joueur plutôt que le ballon, carton rouge logique, Marseille tiendra jusqu'au dernier quart d'heure avant de craquer sur 2 coups de tête du Brésilien Richarlison, frustrant, rageant sans doute, mais aussi une bonne leçon pour le défenseur marseillais Eric Bailly.
C'est vrai que la seconde période, dommage ce carton rouge, après vraiment on était dans la souffrance et je pense qu'on a craqué à la fin contre cette équipe de Tottenham. Déjà 11, pas facile. En plus, à 10, c'était vraiment compliqué.
Marseille défait, mais Marseille digne de la Ligue des Champions, sur le terrain au moins. Dans les tribunes, la fin de match a été marquée par de nouveaux et consternants incidents. Une banderole LGBT arrachée, des jets de projectiles et même un fumigène lancé du parquage marseillais vers les supporters anglais. L'OM risque gros à quelques jours de la réception de Francfort. Un rendez-vous déjà redouté par les autorités.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. 4 clubs français engagés aujourd'hui en Coupe d'Europe. Nantes, Rennes et Monaco en Ligue Europa, Nice en Ligue Europa Conférence. En basket, la France affrontera la Turquie samedi en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus ont conclu la phase de groupe par une défaite face à la Slovénie 88-82. En revanche, c'est terminé en volet pour les Français. Ils n'iront pas en demi-finale du Mondial, battus 3-2 face aux Italiens.
Et ben voilà, round-up complet de la scène sportive. Merci Christophe Lamar. D'ailleurs, Europe 1 Sport, n'oubliez pas, c'est tous les soirs 20h, 23h30. Et ce soir, les décideurs du sport, Virginie Fulpin, Jacques Vendroux, reçoivent Brigitte Henriques, la présidente du CNOSF, le Comité National olympique et sportif français. Il sera bien sûr question de Paris 2024. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, ça fait un moment qu'on parle plus trop de ce qui se passe sur le front militaire en Ukraine. Eh bien, réponse sur ce qui s'y passe avec Cédric Mass, historien militaire avec nous dans un instant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Quelle semaine en Ukraine, alors que depuis début août, on observait un gel des positions. Depuis lundi, les Ukrainiens ont lancé leur fameuse contre-offensive du côté de Kherson. Vous savez, c'est dans le sud du pays. Une autre contre-offensive se dessine à l'est vers Kharkiv et Izium. Alors, jetez un œil sur la carte si vous ne situez pas. En tout cas, c'est la première fois depuis le début du conflit que les Ukrainiens prennent l'initiative. Alors, toujours difficile d'y voir clair, mais on va essayer avec l'un des meilleurs experts français. Il est avec nous en ligne. Bonjour Cédric Mass.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes historien militaire, président de l'Institut Action Résilience. On peut vous suivre sur Twitter d'ailleurs, où chaque jour vous relayez ce que vous trouvez de plus fiable sur le conflit. Sur le plan des opérations militaires, on sent dans la communauté des experts français une fébrilité ces derniers jours à propos de ce qui se passe notamment du côté de Kherson, je le disais. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le plan militaire, Cédric Mass?
Eh bien, cette fébrilité ou cette prudence, elle survient avant tout du fait que nous n'avons que très peu d'informations de la part d'un des codes de camp, puisque les Ukrainiens maîtrisent et bloquent complètement, verrouillent complètement leur communication, y compris sur leur succès, ce qui est un petit peu contre-intuitif, puisqu'en général, quand un camp gagne à la guerre, il a tendance à, au contraire, le proclamer partout et en faire la plus grande publicité, voire maximiser et exagérer ses succès et diminuer ou nier ses défaites, ce que font très bien les Russes, mais côté ukrainien, même les succès, on n'en parle pas. Je vous citerai l'allocution d'hier soir du président Zelensky qui annonce qu'il y a des succès, mais qu'il est encore trop tôt pour citer les villes qui ont été libérées, alors même que nous avons un certain nombre d'informations qui montrent que les succès ukrainiens sont plus importants que ceux qui sont annoncés et qu'on peut imaginer.
Alors, comment vous interprétez-vous ce verrouillage de la communication du côté ukrainien? Est-ce le signe que peut-être le rapport de force est en train de s'inverser dans cette zone de Kherson?
Alors, il y a deux choses. Le rapport de force s'est inversé, en effet, dans le secteur de la tête de pont de Kherson comme ailleurs. Mais il y a aussi, en ce qui concerne ce verrouillage de la communication, une utilisation très fine de l'arme informationnelle. Nous sommes aussi dans un conflit, une guerre informationnelle entre deux propagandes. Et ça, ce n'est pas un gros mot que de le dire. En revanche, du côté ukrainien, on cherche à la fois à attirer l'attention et surtout à ne pas donner d'informations. Ne pas donner d'informations à l'ennemi qui s'informe aussi sur les réseaux sociaux ou auprès des médias. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu dans l'histoire des opérations militaires où l'ennemi était dans le brouillard complet et c'est un flash de journal diffusé à la BBC qui a donné des informations. Oui. Je cite notamment l'offensive alliée contre Rommel en novembre 1941.
Oui, et puis alors là, dans ce conflit, on fait combien de pièces d'artillerie russes ont été perdues parce que quelqu'un s'est pris en photo juste devant, ce qui permettait sa localisation par les forces
ukrainiennes.
Donc
cette diffusion d'informations est extrêmement verrouillée. Oui. Ça permet aussi d'attirer l'attention sur les succès et de les minimiser pour ne pas donner d'informations à l'ennemi, mais aussi pour, au contraire, que les gens, dans l'absence d'informations, les complètent par des informations qui soient plus importantes. La grande crainte du commandement ukrainien dans cette offensive, c'était d'échouer et d'échouer trop vite. Imaginez l'effet retour, l'effet balancier de retour si les Ukrainiens avaient lancé une offensive et qu'elle s'était terminée dans un bain de sang. Oui. Ce que la propagande russe a cherché à nous faire croire. Mais en réalité, comme en face, il n'y avait pas d'informations à part quelques images qui filtraient et qui montraient des succès réels et géolocalisables, eh bien, bien évidemment, cela a permis de neutraliser une partie de cette crainte et cette crainte d'un effet retour. Sachant qu'une offensive, vous savez, il y a plusieurs étapes dans une offensive et il y a des étapes où on avance moins vite que d'autres. Or, exploité par une propagande ennemie ou hostile, ça pourrait être augmenté et maximisé comme étant un échec, alors qu'en réalité, c'est juste une pause ou une reconstitution des unités ou la rotation d'unités avec l'engagement de réserve qui fait qu'on avance moins vite un jour par rapport à un autre.
Alors, deux événements importants cette semaine. Il y a ce qui se passe du côté de la centrale de Zaporijjia. On va en avoir un mot dans un instant. Mais il y a aussi cette réunion ce jeudi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, des ministres de la Défense des pays alliés pour organiser, perpétuer leur soutien aux capacités militaires ukrainiennes. Jusqu'où peut-on aller, Cédric Mass? Du côté de la France notamment, est-ce qu'on a encore des stocks à offrir ou à vendre à Kiev?
Alors oui, toutes les forces armées ne se sont pas occidentales ne se sont pas dépouillées de leur stock, que ce soit des projectiles, des munitions ou des vecteurs, donc des armes qui peuvent les lancer et les projeter sur l'ennemi. Donc on a encore des aides à produire, mais ce type de réunion est très importante à deux niveaux. Premier niveau, de savoir de quoi l'armée ukrainienne a besoin. Souvenez-vous qu'au début l'aide c'était beaucoup de missiles portatifs, Stinger, Javelin. Aujourd'hui on en parle beaucoup moins, même si les Ukrainiens en ont encore besoin. On parle plutôt de systèmes d'armement plus lourds. Aujourd'hui aussi, les Ukrainiens réclament à tort et à cri des armements anti-aériens parce que l'aviation russe fait le maximum pour essayer de bloquer sa contre-offensive et se déploie avec des pertes d'ailleurs qui sont plus importantes ces derniers jours. Et puis, le deuxième point important de ce type de réunion, c'est de montrer le soutien, que le soutien de la communauté internationale ne faiblit pas. C'est important pour nos opinions publiques internationales, mais c'est aussi important pour les Ukrainiens eux-mêmes qui sont très attentifs à ne pas être isolés, à ne pas être seuls, car ils savent que depuis le début, s'ils avaient été abandonnés par la communauté internationale, ils n'auraient pas pu résister avec le succès que l'on peut constater aujourd'hui. Même s'il faut rester prudent sur l'avenir, toute offensive va passer par un point culminant avant de s'arrêter. Et donc, il en faudra bien d'autres avant que l'intégralité du territoire ukrainien soit libérée de l'invasion russe.
Voilà, on lisait dans la presse ces jours-ci que cette guerre en Ukraine, c'est le pire massacre de chars d'assaut depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on apprenait aussi par le journal Le Monde hier que si les Russes se fournissent en artillerie, en drone, en Iran, pardon, et en Corée du Nord pour l'artillerie. Les Ukrainiens, eux, achètent aussi massivement des munitions au Pakistan. Ils cherchent partout dans le monde, de quoi s'armer contre les Russes.
Alors cela s'explique tout à fait, tout simplement parce que les armes qui sont déployées, la majorité des armes qui sont déployées par les Ukrainiens, comme les armes qui sont déployées par les Russes, sont d'anciennes armes du pacte de Varsovie qui avaient des calibres qui n'étaient pas compatibles avec les munitions de l'OTAN. Donc par définition, nos armes, nos obus, nos roquettes ne sont pas d'un calibre compatible avec les pièces de l'ex-pacte de Varsovie, donc de l'ex-armée soviétique. D'ailleurs aussi, nous signalons et nous travaillons avec l'Institut Action Résilience sur ces problèmes de flux et d'approvisionnement de munitions, et nous avons découvert que l'armée chinoise elle-même a pris d'autres calibres qui font que la Chine ne peut pas ravitailler directement en munitions, y compris des munitions de petit calibre, les armes d'origine soviétique. Il ne reste donc que les anciens stocks que l'URSS avait vendus à des tas de pays alliés. Le Pakistan fait partie, la Corée du Nord et plein d'autres pays. Souvenez-vous de ces stocks de munitions livrés par les ex-pays du bloc de l'Est qui avaient rallié l'Union européenne et qui avaient gardé encore certains stocks qui ont été les premiers à les offrir. Je pense à la Pologne, à la Slovaquie et à d'autres pays de l'Est, tous les pays baltes notamment, qui avaient encore des stocks de ce type de munitions qui ne sont plus du tout utilisés au sein des armées compatibles avec l'OTAN.
Merci Cédric Masse. Le temps nous est compté. On n'aura pas le temps de parler de Zaporijjia, mais une autre fois probablement. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. Bonne journée à vous, il est 7h20.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
On parle de ce débat sur la taxation des super profits. Ça continue, une mission parlementaire qui réunit des membres de la majorité et de l'opposition vient même de démarrer.
Oui, espérons que ça éclairera le débat parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion. Par exemple, il est faux de dire que l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Allemagne taxent les super-profits. J'entends ça à longueur des journées. Ces pays ont mis en place un impôt ou une contribution exceptionnelle sur les producteurs d'énergie et sur les banques, dans le cas de l'Espagne. Ce que la France a déjà fait, hein. En réalité, alors c'est à la française, hein, via un mécanisme de régulation des prix complexe qui a pour objectif de financer les énergies renouvelables. De toute façon, vous savez bien, Dimitri, qu'en matière d'impôt ou de contribution, la France est toujours premier. C'est tellement vrai qu'on s'en rend même plus compte. En fait, aucun pays ne taxe les super-profits au sens où la gauche française le propose, pour une raison assez simple. C'est extrêmement difficile de définir un super-profit. Les biologistes et les pharmaciens, ils ont fait des super-profits pendant la pandémie grâce aux tests.
Bah oui.
On pourrait répondre par l'affirmative. Hein. Oui. Est-ce que nos agriculteurs qu'on adore en font aujourd'hui des super-profits grâce à la hausse du cours mondial du blé? Là aussi, on pourrait répondre oui. Alors, on va mettre en place une taxe sur nos agriculteurs parce qu'ils s'en mettraient plein les poches? C'est bien sûr que non. On voit bien que c'est absurde économiquement et politiquement.
Oui, on va dire un super profit, c'est un bénéfice pour lequel l'entreprise n'a pas consenti d'efforts particuliers.
Bon courage pour le mesurer.
Oui, effectivement. Alors, bon, ce qui choque aussi, c'est l'augmentation des dividendes, plus rapide que les salaires. Le dividende, c'est ce qu'on verse aux actionnaires d'une entreprise.
C'est vrai. Ouais, 70 milliards de dividendes pour les entreprises du CAC 40 en 2021, c'est colossal et il serait juste et efficace que ces grandes entreprises augmentent davantage les salaires. Cette augmentation des dividendes, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut être favorable à une grande loi de libéralisation de la la participation, hein, afin que les salariés, même avec des petits salaires, deviennent actionnaires. Ça, c'est une vraie proposition marxiste, hein, le capital au peuple français. Autre remarque, Dimitri, les dividendes, on tape dessus à longueur de journée par méconnaissance, mais c'est très important. Les gens qui achètent les actions des entreprises, ce sont des bienfaiteurs, hein. Ils prennent un risque pour que les entreprises aient de l'argent pour les investissements et pour les salaires. Bah, il est normal qu'ils soient rémunérés par des dividendes.
Mais est-ce que les profits et les dividendes sont suffisamment taxés en France, Nicolas ?
Ah oui, hein, les dividendes sont très taxés en France. Alors, il faut faire un peu de pédagogie, là encore, parce qu'il y a beaucoup de démagogie. En France, les entreprises sont taxées déjà indépendamment des bénéfices. C'est ce qu'on appelle les impôts de production. Le gouvernement les a baissés un peu, hein, de 10 milliards d'euros. Il reste 100 milliards d'euros, quand même. Hein. Ensuite, il y a l'impôt sur les bénéfices des entreprises, qui est de 25%. Il a été un petit peu baissé. Et puis, les prélèvements sur les dividendes, à 30%. Donc, les dividendes, qui sont, comme vous venez de le rappeler, une part des profits, sont en réalité taxés à plus de 50%. C'est beaucoup. On pourrait même légitimement considérer que c'est trop, d'autant que les entreprises ont plus que jamais besoin de capitaux pour investir. Prenez le coût de la transition énergétique. Ouais. C'est très lourd. Ce sont des investissements colossaux pour les entreprises. Si vous taxez trop les bénéfices, si vous taxez trop le capital, vous n'aurez pas de décarbonation. Sans dividendes, sans capital, pas d'écologie.
À bon entendeur, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
7h24, Alban Le Prince pour le journal permanent.
66 000 foyers privés d'électricité cette nuit dans le Var après de violents orages ce matin. 14 000 n'ont toujours pas de courant. Les services de secours précisent qu'il n'y a eu aucune intervention significative. Il n'a pas commencé qu'il est déjà boycotté. Le Conseil national de la refondation s'ouvre aujourd'hui dans l'Essonne à l'initiative d'Emmanuel Macron. Les principaux leaders des partis d'opposition ne viendront pas. Un homme tué à Nice hier après-midi après un refus d'obtempérer. Une affaire qui intervient moins de 24 heures après le décès d'une jeune femme à Rennes lors d'une opération antidrogue.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Les archives d'Europe 1 nous emmènent ce matin en Iran. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Le 8 septembre 1978 a lieu une journée qu'on va surnommer le Vendredi Noir. Des dizaines de manifestants se rassemblent pour un défilé à Téhéran, la capitale. L'armée impériale du Shah ouvre le feu, faisant des milliers de morts.
Oui, des milliers d'étudiants protestent contre le régime, le manque de liberté. Ils exigent que le Shah d'Iran s'en aille, mais lui entend faire appliquer sa politique d'une main de fer. Il décrète la loi martiale, l'armée peut donc tirer à vue sur n'importe qui et le massacre fait plusieurs milliers de victimes.
Ça a tiré terriblement et pendant très longtemps avec des armes lourdes et éventuellement même du canon pour faire sauter quelques barricades rapidement installées au milieu des avenues.
Six jours plus tard ont lieu les obsèques. Les femmes agenouillées sur les tombes hurlant, se roulant dans la poussière. Récit à Téhéran du journaliste d'Europe 1 François Ponchelet.
Pleure un fils tombé sous les balles de l'armée iranienne. Un peu plus loin, un groupe se forme autour d'une tombe abondamment fleurie. C'est celle d'un soldat iranien auquel le peuple rend hommage parce qu'il s'est suicidé après avoir abattu l'officier qui lui a donné l'ordre de tirer vendredi dernier.
Le Shah d'Iran est le pantin des États-Unis, scande la foule dans le cimetière de Téhéran.
À ce moment-là, une réconciliation entre le gouvernement et les oppositions semble impossible.
Oui, la résistance va continuer, c'est ce que dit à l'époque Shapour Bakhtiar, le dirigeant de l'opposition iranienne et futur Premier ministre.
Il faut, comme nous l'avons dit et redit, une personnalité neutre qui serait capable d'avoir la confiance de la population pour faire ce gouvernement.
La révolution islamique est en marche, les manifestations se poursuivent à Téhéran, c'est bientôt la fin de la dynastie des Shahs dans le pays. Au pied du mur, le Shah d'Iran quitte le pays 4 mois plus tard, en janvier 79, et il abdique. Abdolhassan Bani Sadr, qui deviendra président de la République d'Iran en 1980, s'exprime alors en septembre 78 en tant qu'homme politique.
Qu'est-ce qui a fait ce régime pendant 25 dernières années? Il a détruit l'appareil productif. Vous savez, nous étions toujours le carrefour du monde, le champ de bataille. Donc, ce peuple a une théorie de résistance et de survie.
Le jour même où le Shah d'Iran abdique, l'ayatollah Khomeini revient de son exil en Irak pour rétablir l'ordre et il est accueilli en héros.
Voilà, et en proclamant la République islamique d'Iran, Khomeini met fin à 2500 ans de monarchie. Merci Laure d'Autriche. À suivre dans Europe Matin avec Zaporijia en Ukraine. Et ben l'Iran, justement, c'est le pays de l'autre crise nucléaire actuelle. Le décryptage de Vincent Hervouet dans son édito juste après le journal de Romain Oké qui arrive. Le journal de Romain Oké, bien sûr. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Quand les piscines vont-elles rouvrir? Des bassins trop chers à chauffer d'après la société Vermarine qui a fermé en début de semaine une trentaine de structures. La décision a pris de court les collectivités locales. À ce stade, pas de procédure judiciaire mais des discussions comme à Limoges, Saint-Dizier par exemple. Trois piscines pourraient d'ailleurs ouvrir dès la semaine prochaine.
En attendant, les élèves sont les premiers pénalisés avec la fin des cours de natation.
Oui, et pourtant en France, la moitié des collégiens ne sait pas bien nager selon le ministère des Sports. Alors forcément, ces fermetures préoccupent les professeurs de PS que Clotilde Dumay a contacté pour Europe 1.
Avec ses classes de 6e, Dominique Parvillier est sans piscine fixe. Le professeur de PS donnait des cours à l'Aquapolis, à Limoges. L'établissement est fermé depuis lundi. Le problème, c'est que l'entrée au collège est la dernière étape pour obtenir l'attestation. Savoir nager, obligatoire pour pratiquer une activité nautique.
À l'arrivée en 6e, on a environ, nous, dans notre collège, 30% des élèves qui ne savent pas nager. Et donc, on est censé, dans les textes, leur valider le savoir nager. Les textes de 5e, 4e, 3e, même du lycée, ne parlent pas du savoir nager comme une obligation. Donc, c'est extrêmement compliqué d'aller à la piscine, de pouvoir avoir des créneaux pour les élèves après la 6e. Donc, ceux qui n'ont pas appris à nager, c'est souvent très compliqué par la suite pour ces élèves-là.
En France, 800 000 enfants n'ont déjà pas pu apprendre à nager à cause du Covid et la situation pourrait empirer. 10% des grandes villes membres de l'association France Urbaine envisagent de fermer leurs piscines cet hiver. Dominique Parvillier redoute même que ses élèves soient privés d'autres sports.
On a déjà quelques communes qui ont averti qu'ils ne pourraient peut-être pas chauffer les gymnases pendant l'hiver. S'il n'y a pas de chauffage, malheureusement, on sera obligé de ne pas faire EPS, en fait.
Le sport, dont la natation, qui est une priorité nationale, fait pourtant partie des enseignements obligatoires au collège. 4 heures hebdomadaires en 6e, 3 heures pour les autres niveaux.
Clotilde Dumay, économiser l'énergie, une priorité, vous le savez, en France et chez nos voisins aussi. L'Italie, par exemple, s'est fixé un objectif, réduire sa consommation de 15% avant l'hiver. Une crise qui pourrait avoir des conséquences dans les urnes. L'Italie vote à la fin du mois des élections législatives avec l'extrême droite en tête dans les sondages. Un homme a décidé de faire barrage. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon et il était à Rome hier soir. Un déplacement pour soutenir la liste d'extrême gauche, Unione Popolare, l'équivalent de la NUPES, version italienne. Le reportage de notre envoyé spécial, Alexis de la Fontaine.
Union Populaire à la base et au sommet.
Unione Popolare à la base et al vertice, mais innanzitutto à la base.
Allez, courage!
Forza, coraggio!
Même jusqu'à Rome, Jean-Luc Mélenchon fait briller ses talents de tribun. Accueilli comme une rockstar, l'ancien leader insoumis a clamé son soutien à l'Union Populaire dans toute l'Europe. Ici en Italie, ce duel entre la gauche et la grande favorite d'extrême droite, Giorgia Meloni, surnommée la Marine Le Pen italienne, déchaîne les passions. Impossible donc pour Jean-Luc Mélenchon de manquer ce rendez-vous avec l'histoire.
Il y en a qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Je vais rester dans mon lit pendant que vous affrontez les fascistes. » Mais qui aime la beauté n'aime pas l'Italie ? Qui est héritier de l'humanisme et n'a pas un devoir absolu à l'égard des Italiens ?
Mais pour l'ancien candidat à la présidentielle, cette stature internationale lui offre surtout une porte de sortie qu'il considère à sa hauteur, car Jean-Luc Mélenchon veut s'éloigner des querelles internes de la NUP avec l'espoir de devenir un jour parrain de la gauche européenne.
Le reportage d'Alexis de la Fontaine à Rome pour Europe 1.
Avant d'être le parrain de la gauche européenne, Jean-Luc Mélenchon reste encore le leader de la France Insoumise, parti qui, comme beaucoup d'autres, ne participera pas aujourd'hui à l'inauguration du Conseil national de la Refondation.
Un CNR boycotté par les oppositions. Il est lancé à huis clos aujourd'hui. Une cinquantaine de participants est attendue au Centre National du Rugby de Marcoussis, en Essonne. Le projet, pas une nouvelle instance, mais une nouvelle manière de débattre, dixit Emmanuel Macron hier.
Le président de la République qui a relancé le débat justement sur un autre sujet, le droit à mourir dans la dignité.
Oui, un engagement pris devant Lynn Renault, la chanteuse de 94 ans, était reçue à l'Élysée la semaine dernière.
Votre combat pour le droit à mourir dans la dignité vous ressemble et nous oblige. Parce qu'il est, comme chaque fois avec vous, dicté par la bonté, l'exigence. Et cette intuition unique que c'est le moment de faire. Alors nous ferons.
Alors nous ferons, oui, mais quand l'exécutif doit en effet faire des annonces, et même d'ici la semaine prochaine, Arthur Delaborde.
Oui, l'Élysée travaille à l'annonce d'une convention citoyenne sur l'euthanasie. Emmanuel Macron souhaite ainsi réunir tous les acteurs et fait le pari qu'un débat permettra d'apaiser ce sujet très clivant. Méthode et calendrier seront donc dévoilés dans les tout prochains jours, mais le président serait même allé plus loin vendredi à l'occasion de la remise de la Grand Croix de la Légion d'honneur à la comédienne Lynn Renault. Il aurait confié notamment au député d'hiver gauche Olivier Falorni son souhait de faire voter une loi dès l'année prochaine.
On lui a rappelé qu'on ne pouvait plus attendre. Et donc, il nous a répondu qu'il ne s'agissait pas de reporter toujours plus loin cette grande loi, mais de la faire en 2023.
Des déclarations privées minimisées par l'Élysée, mais qui font bondir les opposants à l'euthanasie. Ils craignent que tout soit décidé avant même la convention citoyenne, comme l'explique Tuc Dual-Derville, porte-parole d'Alliance Vita.
Ce qui est inquiétant, c'est quand on consulte d'un air de rien, et puis qu'ensuite on applique ce qu'on a déjà décidé. Et la façon dont le président de la République s'est déjà exprimé nous inquiète beaucoup, et donc on va non seulement être consulté si on peut, mais également nous mobiliser.
Rouvrir le débat sur l'euthanasie était en tout cas une promesse du candidat Macron lors de la présentation de son programme pour 2022, mais cette promesse, il l'avait déjà faite lors de son premier quinquennat avant de l'abandonner.
Arthur Delaborde, 7h37, une traversée du terrain avec les bras écartés tel un avion.
Ah oui, comme vous quand vous entrez en studio.
Exactement, c'est ça. Alors c'est la chorégraphie de Victoire aussi de Caroline Garcia, Flying Caroline, une célébration que l'on espère bien sûr revoir la nuit prochaine sur le central de l'US Open. À New York, la Française joue sa place en finale contre la Tunisienne Ons Jabeur.
Et même à 6000 km de la France, Caroline Garcia pourra compter sur les encouragements de son tout premier club de tennis.
Oui, c'est la Sulle de Villeurbanne, près de Lyon, là où la petite Caroline a tapé ses premières balles. Notre correspondant Jean-Luc Boujon a rencontré la relève.
Caroline Garcia, c'est l'idole des enfants du club. D'ailleurs, un peu partout dans le hall, s'affichent les photos et le sourire de la championne. Pour Thomas, 9 ans, c'est tout simplement un modèle.
Ouais, je l'aime bien. Par exemple, son revers, je l'adore. Et c'est aussi son service. J'espère qu'un jour, je pourrai faire un revers et un service comme elle.
Caroline Garcia est arrivée à la Sulle au même âge, à 9 ans. Une joueuse qui affichait déjà les qualités qui font la différence aujourd'hui, se souvient Muriel Mérol, son entraîneur de 2002 à 2007.
Elle, ça va très vite. C'est en 3-4 coups de raquette. Je me régale à l'avoir jouée. Elle a un jeu hyper brillant, donc il y a beaucoup de points gagnants. Elle a toujours joué comme ça, petite. C'était une gamine qui tentait beaucoup, qui frappait la balle comme elle pouvait à l'époque parce qu'elle n'avait pas un gros gabarit. Quelqu'un qui voulait aller vers l'avant, c'est sa nature.
Caroline Garcia, fidèle à son club dont elle est toujours licenciée, elle vient ici une fois par an pour le plus grand bonheur de Juliette, 14 ans.
J'ai déjà joué avec elle.
C'est vrai ?
Oui. C'était super, on a échangé quelques balles, elle était super sympa. Et...
Coup droit puissant ?
Non, pas contre moi.
Elle a été sympa.
Voilà, juste le fait qu'elle vienne d'ici, ça nous donne un exemple à faire.
Ici, on rêve donc de la voir revenir dans quelques semaines avec le trophée de l'US Open dans les mains. En attendant, une bonne partie des membres du club seront cette nuit devant l'écran géant, installé à deux pas des cours où la petite Caroline a tapé ses premières balles. Villeurbanne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et en effet, il va falloir mettre le réveil pour assister, on l'espère, à l'exploit de Caroline Garcia. Le match démarre à 1h du matin, heure française. Chez les hommes, je vous donne le score. Sinner mène 2-7-1 face à Alcaraz, 4e set en ce moment.
Merci beaucoup, Romane. Ça, c'est du temps réel. C'est la force de la radio, c'est la force d'Europe 1. Dans un instant, la force d'Europe 1, c'est aussi la puissance d'analyse de Vincent Hervouette qui va nous parler de l'autre crise nucléaire du moment. Il y a Zaporijjia en Ukraine et il y a l'Iran. À tout de suite.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, notre page culture quotidienne, Nicolas Caro, pour son livre du jour.
Bonjour Dimitri.
Une histoire de licenciement ce matin.
Oui, hein. Le nouveau livre de Nicolas Rey.
Ah, je sais que vous l'adorez.
Ouais, je l'adore.
Nicolas Rey. Et idée de sortie pour ce week-end avec Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et vous avez trouvé l'expo la plus déroutante de la rentrée.
Ah oui,
mais n'en dites pas plus, on va voir ça dans un instant. Avant cela, les grandes affaires du monde. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Vous nous parlez ce matin de la course au nucléaire de l'Iran. Le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dénonce les Iraniens. Ils trichent.
Oui, il s'appelle Raphaël Grossi. C'est un diplomate argentin, père de 8 enfants, pas le genre à faire les choses à moitié. Il est allé lui-même à Zaporijjia le week-end dernier, la centrale nucléaire occupée par les Russes. Et il décrit une situation intenable, un personnel stressé. Il réclame une zone de sécurité alentour. Raphaël Grossi ne fuit pas ses responsabilités. Pareil avec l'Iran, il dit tout haut ce que le monde refuse d'entendre. Il est impossible d'assurer que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique. Autrement dit, les Iraniens trichent. Ils se moquent du monde et de sa police nucléaire. Leur stock d'uranium enrichi est à peu près 20 fois supérieur à ce qui était autorisé. Et surtout, 55 kilos sont enrichis à 60%. C'est-à-dire qu'il leur suffit de laisser tourner 3 semaines de plus les centrifugeuses pour avoir de quoi fabriquer 2 bombes atomiques. Enfin, Ils n'ont pas cessé d'entraver la IEA, démontant ses caméras, bloquant ses équipes, refusant obstinément d'expliquer depuis un an et demi pourquoi des traces d'uranium enrichi ont été découvertes sur 3 sites qui n'avaient pas été déclarés. En creux, l'ONU accuse les Mollahs d'avoir un programme clandestin. C'est un secret de polichinelle, mais c'est un cactus que le diplomate jette sur la table des négociations qui s'éternisent à Vienne.
Et alors pourquoi le monde fait-il mine de l'ignorer ?
D'abord, il y a une raison bête. Il regarde ailleurs. Il est difficile de s'occuper de deux crises à la fois. Et pour les Iraniens, la guerre en Ukraine est une bénédiction. On les laisse tranquilles, les caisses sont pleines. Ils ont même signé un pacte stratégique avec la Chine auquel ils vendent leur pétrole. Il y a une autre raison pour expliquer le silence de l'Occident, c'est que la partie est jouée. Les Iraniens sont au seuil nucléaire, c'est-à-dire en capacité de se doter d'une bombe. Même si demain, ils démontent les centrifugeuses, même s'ils peinent un peu à confectionner une ogive nucléaire, ils n'oublieront pas ce qu'ils ont appris. Ils sont intouchables. Game over, c'est trop tard. Arrêter de négocier n'aurait qu'une conséquence, les pousser à assembler une bombe le plus vite possible. Du coup, on fait vivre le petit théâtre diplomatique de Vienne où les négociateurs européens disent qu'un accord est imminent et prétendent qu'il permettra de contrôler cette course à l'atome.
Est-ce que Joe Biden, Vincent, va accepter ce fait accompli ? Est-ce qu'Israël aussi peut laisser faire les Iraniens ?
Alors les Israéliens sont en campagne électorale jusqu'en novembre. Ils ne peuvent accepter que l'Iran ait la bombe. Toute la question est de savoir s'ils peuvent tolérer que l'Iran soit au seuil nucléaire. Joe Biden, lui aussi, est en campagne pour les mid-term. Alors, lever les sanctions et couvrir de pétrodollars un État terroriste fait mauvais genre, mais ça ferait baisser les cours du pétrole, et ça, c'est bon à prendre. Il pourra toujours expliquer que c'est la faute de Donald Trump, c'est lui qui a déchiré l'accord de Vienne, parce que c'était un mauvais accord, ce qui est vrai, sauf que pas d'accord du tout, c'est avéré pire encore. Raphaël Grossi, en tous les cas, va rester seul à sonner le tocsin.
Merci beaucoup Vincent Herbouet. Il est 7h46.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Alors, on va rebondir après ça, Nicolas Caro. Hein. Non, mais c'est cette tragédie iranienne. Enfin, c'est,
et on la voit, course à l'abîme.
Voilà, on voit une espèce d'entonnoir comme ça et on est au fond de l'entonnoir. Bon, bref, on va prendre un peu de recul. Littérature avec vous. Vous nous parlez du nouveau roman, Nicolas, du nouveau roman de Nicolas Rey.
Exactement. Nicolas Rey qui souvent se raconte lui-même dans ses romans toujours géniaux. Mais cette fois, il va plus loin dans la fiction. C'est même carrément une sorte de polar. Ça s'appelle Crédit illimité. Ça sonne comme un titre de la série noire d'ailleurs, édité chez Le Diable Vauvert.
Alors que raconte ce livre ?
C'est l'histoire d'un type de 49 ans, Diego Lambert. Il a écrit quelques romans prometteurs mais qui se sont mal vendus. Ça l'empêche pas de vivre dans un loft, dans un endroit chic de Paris et de pas avoir à travailler. Pourtant il n'est pas riche, pas du tout d'ailleurs. Pour la première fois de sa vie, il est obligé de prendre le métro, mon Dieu.
Dur.
Et surtout, les enveloppes de la banque s'accumulent dans sa boîte aux lettres. Ce sont des relances. Il ne prend même plus la peine de les ouvrir. À quoi bon ? Puisqu'au début du livre, il vient d'investir ses tout derniers sous dans un café. Il a déjà taxé sa grand-mère qui lui a donné ce qu'elle avait en lui confiant que de toute façon, elle n'aimait pas ses cousins et que sa petite sœur a piqué la carte bleue de son mari pour dépanner son grand frère.
Comment se fait-il que sans argent, il arrive à vivre dans les beaux quartiers ?
Son père est riche, très riche. Il dirige une grosse société dont le siège est à la Défense et donc à court d'idées. Diego se rend dans le bureau de son père pour obtenir de quoi continuer son train de vie. Mais son père est un vrai sale type, très charismatique mais aussi très pervers. Diego s'installe sur un fauteuil en face de lui. Son père attrape un sac et lui dit « Mon fils, il y a 50 000 euros là-dedans. Ils sont pour toi, mais à une condition. » Tu vas travailler un mois comme DRH d'une de mes sociétés de désherbants à Saint-Omer.
Bah c'est pas mal, travailler pour gagner de l'argent, 50 000 euros pour un mois en plus, c'est quand même un record de salaire. Hein.
Oui, mais attendez, il doit remplacer la DRH de l'entreprise en congé maladie et il y a 15 personnes à licencier.
Ouf.
Diego doit faire le sale boulot. Il accepte quand même, après tout, c'est 46 000 euros de plus que le salaire d'un DRH normal et ça se fera avec ou sans lui. Mais il n'a jamais travaillé de sa vie. Il reçoit petit à petit les ouvriers concernés avec sa barbe de 3 jours et son étiquette de fils du patron. Le problème, c'est que d'abord, il se prend d'amitié pour ces gens et par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi il faudrait les licencier. L'entreprise est très rentable et il commence à enquêter et à aller un peu plus loin que prévu.
Et là, vous êtes sûr que c'est un polar, là ?
Ben oui, mais je suis un peu embêté parce que j'ai peur de trop en dévoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un meurtre.
Ah.
Il y aura
ah,
une enquête. Il y aura des
peur.
Policiers, mais aussi beaucoup d'humour, de désinvolture désespérée, une histoire d'amour et un style, on se lasse jamais du style enlevé de Nicolas Rey.
Ah, je sens que vous avez vraiment un gros faible pour lui. Hein.
C'est mon héros.
Ça fait 20 ans qu'il écrit, il a été primé. Et ça faisait un moment qu'il n'avait pas écrit, je crois.
Ouais, ça faisait 3 ans, je crois.
Voilà, ça s'appelle Crédit illimité, signé Nicolas Rey, R-E-Y, c'est au Diable Vauvert. Alors, un bon bouquin et une bonne expo, quoi de mieux? Ça fait un bon week-end, tout ça, Marie Jiquel. On part au musée Mayol avec vous ce matin. C'est, je le précise, c'est à Paris, c'est à deux pas de Matignon. Mm-hmm. Pour une exposition de statues qui s'appelle « Hyper-réalisme, ceci n'est pas un corps ». C'est une rétrospective sur ce courant assez méconnu, assez confidentiel, qui remonte quoi, aux années 70, si je ne dis pas de bêtises. Alors donc, ce sont des statues, des copies de corps humains.
Et oui, c'est pour cela que l'exposition est assez troublante. On se promène un peu comme au musée Grévin ou chez Madame Tussaud, mais sans les stars. Et on ne sait pas si l'on croise une œuvre d'art ou un visiteur. Alors je vous conseille de vous attarder sur les détails, les plis de la peau, les grains de beauté, la texture de la peau, en silicone, en bronze ou même en bois. Et parfois, ces statues empruntent de vraies matières. François Henrard est historien de l'art.
Pour cette sculpture de Dwayne Henson, il a vraiment fait venir ses modèles. Il les a moulés, il a repris leurs vêtements et il leur a demandé de se raser. Et donc c'est ses cheveux, les cheveux des modèles qu'il a utilisés pour aller les mettre ici sur la sculpture et refaire leur chevelure.
Comment on fait pour entretenir des sculptures hyper réalistes ?
Mais ça, ceux qui sont en charge de l'entretien de ces sculptures s'arrachent les cheveux, sans mauvais jeu de mots parfois, parce qu'on est vraiment dans des techniques mixtes. On a à la fois du bronze, mais du bronze peint, et en plus du textile et du cheveu humain.
Voilà, donc l'imitation du réel, on a bien compris.
Vous imaginez votre statue au musée Grévin avec vos cheveux, Dimitri ?
J'étais en train de tous vous imaginer dans le musée.
Ouais, c'est intéressant. Et en tout cas, c'est pas nouveau, on fait ça depuis l'Antiquité.
Et oui, mais ce courant-là est né aux États-Unis dans les années 60, vous l'avez dit, en réaction au pop art et à l'art abstrait. Une poignée d'artistes lassés par ces tableaux hermétiques ont décidé de revenir à cette copie du réel. On va écouter François Henrard.
Mais c'est une exposition très surprenante. On se retrouve véritablement face à des gens, face à des corps humains, face à des sculptures qui ont l'air vraiment criantes de vérité, on pourrait croire qu'elles vont prendre vie.
Alors, vous le savez, la copie parfaite n'existe pas et donc nos artistes hyper-réalistes sont un brin romantique dans le sens où ils s'engagent dans une entreprise impossible. Écoutez, Fabien Mérel, il est sculpteur hyper-réaliste et on peut croiser ses œuvres dans le parcours de l'exposition.
On ne peut pas faire aussi bien qu'on l'aimerait ou aussi beau que quand on regarde quelqu'un qui marche dans la rue ou quelqu'un qui est en train de vivre en face de nous, c'est impossible. Donc on n'est jamais satisfait.
Voilà, ça
a l'air chouette.
C'est très très chouette.
Je suis allé voir une photo notamment pour vous donner une idée de ce qu'est l'hyper-réalisme avant d'aller à l'expo. Vous allez voir sur Google une œuvre.
Ou sur le site du musée Mayol. Hein.
Ou tout à fait, vous avez raison. Une œuvre de Ron Muck.
C'est un nouveau-né
qui fait à peu près 5-6 mètres de long. Mais c'est troublant parce qu'il a l'air vivant. Il ne bouge pas, mais il est vivant. Voilà, c'est donc au musée Mayol. Hyper-réalisme. Et c'est jusqu'au 8 janvier prochain. J'ai très envie d'aller la voir, cette expo.
Allez-y. Vous m'en direz des nouvelles.
Merci beaucoup, Marie Jiquel. C'est un peu perturbant, quand même, cette expo. Merci, Marie Jiquel. Merci, Nicolas Caro.
Merci, Dimitri.
Merci, Vincent. À tout de suite, dans un instant, l'édito politique.
Europe Matin.
Mais juste avant, le journal permanent. Alban Le Prince.
Jour J pour le Conseil national de la refondation. Emmanuel Macron en donnera le coup d'envoi tout à l'heure depuis Marcoussis dans l'Essonne. Au menu des discussions, éducation, santé, plein emploi, grand âge et transition écologique. Un nouveau machin, tacle François Hollande. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Santé au début de la crise Covid, fait son mea culpa ce matin dans les colonnes du Parisien. Il reconnaît plusieurs loupés, notamment sur les masques. Et puis au Royaume-Uni, Liz Truss, la nouvelle première ministre, doit annoncer dès ce matin devant le Parlement un gel des factures d'énergie et un paquet de mesures supplémentaires pour un total de 100 milliards de livres.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, on en parlait à l'instant. C'est aujourd'hui que se réunit à Marcoussis le fameux CNR, Conseil National de la Refondation, imaginé par Emmanuel Macron. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne se bouscule pas au rendez-vous. Les partis d'opposition le boudent, tout comme la quasi-totalité des syndicats et même Édouard Philippe, qui est pourtant un allié du président de la République. Bon, cette refondation semble assez mal partie. Est-ce qu'on va vers un CNR pour rien ?
C'est vrai, Dimitri, que depuis l'origine, l'utilité de ce drôle de rendez-vous lancé par Emmanuel Macron avant les législatives est assez énigmatique, y compris pour ses propres amis. Et puis déjà son nom, CNR, Conseil National de la Refondation. Vous avez vu l'astuce, Dimitri ? Vous avez saisi la fine allusion au Conseil National de la Résistance ?
Ah bah non, il m'avait échappé.
Et ben voilà. Alors pourquoi pas ? Enfin, rappelons tout de même que le CNR, le vrai... fut créé en 1943 pour organiser la résistance militaire contre l'occupant allemand et jeter les bases d'un programme de redressement politique et économique qui sera appliqué à la libération. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, je sais bien que nous sommes en guerre. Dieu sait que Macron nous le dit assez. Enfin, tout de même, nous ne vivons pas, que je sache, sous le joug des nazis. Le président Macron, en dépit de ses éminentes qualités, n'est pas le général de Gaulle. Elisabeth Borne ne saurait passer pour la réincarnation de Jean Moulin. Il est, me semble-t-il, des références historiques que l'on devrait tout de même manier avec un tout petit peu de précaution.
Alors sans doute, Alexis, mais l'objectif d'Emmanuel Macron qui est de répondre à la crise démocratique en inventant de nouvelles formes de délibération, est-ce que c'est illégitime en soi ?
Non, pas du tout. L'objectif, il est parfaitement légitime. Mais c'est le moyen qui est curieux. Bien sûr, il existe une fracture démocratique. Bien sûr, les Français sont de plus en plus éloignés de la politique, de plus en plus méfiants vers nos institutions. Mais précisément, ça n'est pas en court-circuitant les instances démocratiques que l'on restaurera la démocratie. La confiance dans la démocratie. S'il s'agit, comme on nous le dit, d'imaginer l'avenir de l'école, de la santé, de parler emploi, vieillissement ou transition écologique, dites-moi en quoi ces lanceurs d'alerte autoproclamés, ces experts autodésignés, ces lobbyistes et activistes de tout poil qui peuplent habituellement ce genre d'enceinte dite citoyenne, en quoi seraient-ils plus légitimes, plus représentatifs que des députés et des sénateurs qui, jusqu'à preuve du contraire, ont été élus pour cela, et par les citoyens justement. Si l'on veut restaurer la démocratie représentative, il serait peut-être judicieux de ne pas commencer par ruiner le principe de représentation.
Mmh. Oui, c'est bien vu. Donc vous pensez que ce CNR, ça ne va déboucher sur rien ?
Bon, on verra bien. Hein. Bon, enfin, disons quand même que les précédents dont s'inspire Emmanuel Macron n'incitent guère à l'optimisme. Alors, on peut considérer à la rigueur que le grand débat organisé après la crise des Gilets jaunes a aidé à noyer le poisson jaune, mais il est quand même difficile d'y voir un moment phare de la pensée réformatrice contemporaine. Quant à la Convention sur le climat, qui, entre nous, a quand même réussi ce prodige d'oublier le nucléaire, oui. Bon, elle a surtout provoqué des frustrations quand ses propositions les plus absurdes, fort heureusement d'ailleurs, ont été enterrées. Donc, nous allons sûrement entendre beaucoup de beaux discours. Emmanuel Macron, qui est censé les écouter, ne résistera sans doute pas au plaisir d'une de ces harangues dont il a le secret. Mais après, c'est pas le CNR, parce que ce n'est pas son rôle, qui lancera la réforme des retraites, rétablira les finances publiques, redressera l'école, relancera le nucléaire, reverra la politique d'immigration. Or, c'est bien là que le bât blesse. L'action, l'action, l'action. Croyez-moi, Dimitri, il y a pire que parler pour ne rien dire, c'est parler pour ne rien faire.
Merci Alexis Brézet. À la une de votre journal Le Figaro, Emmanuel Macron cherche toujours un cap pour son mandat. 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Tiens justement, Emmanuel Macron, sait-il où il va sur le nucléaire ? On en parle dans le prochain journal et avec l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13 ce matin, Bernard Accoyer, président aujourd'hui de l'association Patrimoine Nucléaire et Climat France. A tout de suite. Jeudi 8 septembre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Le gouvernement va-t-il remettre le feu aux poudres au nom de l'égalité entre filles et garçons ? L'exécutif veut, dès le mois prochain, lancer des actions pour lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. Ça sent bon l'ABCD de l'égalité, abandonné par le gouvernement Hollande il y a quelques années. Explication dans un instant. Où en sont les promesses d'Emmanuel Macron pour la relance du nucléaire alors que les prix de l'énergie flambent ? Europe 1 a mené l'enquête. Résultat dans un instant avec Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Et puis c'est quoi ce machin ? L'opposition n'a pas de mots assez durs pour qualifier le Conseil national de la refondation, cet espace de débat pour imaginer l'avenir de la France que va lancer aujourd'hui Emmanuel Macron. Une cinquantaine de participants, mais aucune tête d'affiche, nous dira Jacques Serret dans un instant. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Eh bien, vous l'avez dit, notre journaliste Baptiste Morin va en parler dans quelques instants et on pose la question, comment la France, qui était un pays exemplaire pour sa fiabilité et ses prix en matière d'électricité, en est arrivé là. Notre invité dénonce un sabordage. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, il est aujourd'hui à la tête de l'ONG Patrimoine Nucléaire et Climat. A tout de suite pour l'interview.
Europe 1.
Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les filles sont-elles forcément des princesses juchées sur des licornes et les garçons des chevaliers en armure? Les stéréotypes de genre pourraient faire leur retour dans le débat public dès le mois prochain. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, envisage de relancer la lutte contre les inégalités filles-garçons à l'école. Objectif, prévenir les violences sexistes et sexuelles. Mais le sujet est très sensible. Il y a quelques années, la boîte de Pandore avait déjà été ouverte avec l'ABCD de l'égalité, projet qui avait échoué, Louise Salé, après avoir suscité de vives tensions.
Oui, c'est une expérimentation menée en 2013-2014 à l'initiative des ministres de l'Éducation Vincent Peillon puis Benoît Hamon et de la ministre des Droits des Femmes Najat Vallaud-Belkacem. Des textes, des chansons, des documents ont été diffusés auprès de profs en classe de maternelle et élémentaire dans 600 établissements. L'objectif revendiqué, combattre dans toutes les disciplines les idées reçues telles que « oui, un garçon a le droit de jouer à la poupée » ou bien « oui, une fille peut taper dans un ballon ». Pour les profs de PS, par exemple, des fiches indiquaient comment ne pas laisser les filles où les garçons s'auto-enfermaient dans certaines pratiques sportives. Et selon leur concepteur, ces ABCD visaient à détruire les stéréotypes le plus tôt possible pour plus de mixité ensuite au moment des choix d'orientation. D'après l'inspection générale, les enseignants ont apprécié l'expérience malgré quelques défauts. Les documents étaient très variés, désorganisés, ils manquaient d'unité. Et autre point faible, pointé par l'inspection dans son rapport, la communication. Le mot « genre » dans « lutte contre les stéréotypes de genre » a été ainsi très mal perçu. Le texte mentionne qu'il aurait fallu privilégier l'expression « lutte contre les inégalités filles-garçons ».
Louise Salé, la communication et l'utilisation du mot « genre », voilà ce qui avait rendu ce sujet hautement inflammable. Il faut dire qu'il touche au code, au fondement même de la société, ce qui le rend très clivant, Victor Chabert.
Oui, à l'époque, la droite et une partie de la gauche universaliste avaient dénoncé ces ABCD de l'égalité. Ils y voyaient une tentative d'indifférenciation entre les garçons et les filles, ou encore l'apprentissage aux enfants que l'identité sexuelle est une construction sociale, niant toute réalité biologique, l'arrivée de la théorie du genre à l'école. Sous pression notamment de la Manif pour tous, le gouvernement Valls a enterré alors la campagne. Interrogé à son arrivée rue de Grenelle en 2017, Jean-Michel Blanquer déclaré que tel que ces ABCD étaient faits, ils n'étaient pas bons et les avaient même jugés inutiles. Changement de ligne donc aujourd'hui avec le controversé Pap Ndiaye, en souhaitant relancer des concertations pour lutter contre les stéréotypes de genre. Le ministre de l'Éducation nationale reprend une sémantique issue de la gauche woke et des associations LGBT, tout en rouvrant un dossier explosif que ses détracteurs ne manqueront pas de saisir.
Victor Chabert.
Ah, qu'on ne vienne pas le chercher sur Fessenheim. Ça, c'est Emmanuel Macron, lundi, face à la presse, refusant de porter le chapeau de la crise qui menace notre système électrique cet hiver. Je vous propose de le réécouter.
C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus. Donc chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises.
Il a pris ses responsabilités, dit-il. Sur Europe 1, ça nous a rappelé ce discours à Belfort en février dernier. Emmanuel Macron annonçait la renaissance du nucléaire français avec la construction de 6 nouveaux réacteurs et le prolongement de la durée de vie des réacteurs existants au-delà de 50 ans. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1 en direct avec nous. Baptiste, vous avez enquêté pour Europe 1 7 mois après ces annonces et alors que la France est percutée de plein fouet aujourd'hui par la crise énergétique et la flambée des prix, où en sommes-nous de ces chantiers?
Eh bien rien n'a commencé, enfin quasiment rien. Hier, il y a eu du nouveau. La Commission nationale du débat public a accepté d'ouvrir un débat public. Il aura lieu du mois d'octobre au mois de février 2023. 4 mois de débat public, c'est la condition préalable en France à chaque grand investissement public. Mais pour le reste, rien n'a changé, malgré les affirmations du président. La France suit toujours la feuille de route d'il y a 2 ans, de 2020, celle qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs, dont ceux de Fessenheim. Pour changer de paradigme, il faudra attendre le printemps 2023 et une nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie.
Donc il va falloir, Baptiste, attendre printemps 2023, comme vous venez de le dire, pour que débute la construction de nouveaux réacteurs?
Eh bien non, ce sera encore plus tard. Après le débat public, il faudra déposer des demandes d'autorisation, une quinzaine en général. Les démarches administratives, c'est le premier frein. Pour Valérie Faudon de la Société française de l'énergie nucléaire, il faut simplifier ces procédures.
C'est beaucoup de travail et souvent ce sont des procédures qui n'ont pas été faites pour centrales nucléaires, surtout qu'on n'a pas instruit de dossier depuis très longtemps.
Le deuxième frein, et il est de taille, c'est le financement. Les 6 nouveaux EPR, c'est un budget de 50 milliards d'euros. Or, EDF l'a dit, impossible pour l'entreprise de financer seule. L'État planche donc sur un plan de financement. Bref, vous voyez bien que ces nouveaux réacteurs, ils ne sont pas pour demain. De nombreux experts ne voient pas le premier chantier débuter avant 2027.
Merci beaucoup, l'enquête de Baptiste Morin pour Europe 1.
On reste au chapitre économique. Face à l'inflation, la BCE, la Banque Centrale Européenne, s'apprête à relever les taux d'intérêt aujourd'hui.
Une augmentation qui pourrait atteindre 0,75%, deuxième hausse depuis juillet dernier, qui aura des conséquences sur le coût des crédits immobiliers, le financement des entreprises et le remboursement de la dette publique.
Il est 8h07 sur Europe 1, c'est le jour J à Marcoussis, dans l'Essonne. Dans l'Essonne, dans un peu plus d'une heure, Emmanuel Macron va inaugurer le Conseil National de la Refondation.
Un rendez-vous qui ne manque pas d'ambition, hein. Mêler élus et société civile pour réfléchir aux grands enjeux du moment. Égalité des chances, climat, indépendance et souveraineté française. Et Emmanuel Macron l'a dit hier, le défi de l'accès aux soins. Mais au-delà des sujets abordés, la question ce matin, c'est surtout qui participera à ce CNR boycotté par l'opposition. À droite comme à gauche, on dénonce un machin qui veut contourner le Parlement. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Vous êtes à Marcoussis, où vous allez suivre ce Conseil national de la Refondation pour Europe 1. Je le disais, un CNR qui fait un peu grise mine, une cinquantaine de personnes attendues, mais pas de tête d'affiche, hein, Jacques.
Oui, la liste des participants fait pâle figure. 53 personnes, dont 10 ministres. Aucun leader des partis d'opposition ne sera là. Seuls les 3 partis de la majorité présidentielle seront représentés. La République En Marche, le Modem et Horizon. Horizon qui envoie ici à Marcoussis la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chemeil. Édouard Philippe ayant privilégié un déplacement au Québec. Il faut dire que la classe politique est loin d'être convaincue par cette invention d'Emmanuel Macron, critiquée de toutes parts. Un gadget pour le Rassemblement National, un bazar pour les insoumis. Alors comme s'il y avait encore besoin d'en dessiner les contours, le chef de l'État s'est une nouvelle fois employé hier à préciser de quoi il en relevait.
Ce Conseil national de la Refondation va nous permettre d'engager un dialogue constructif, de définir des objectifs partagés, de co-construire les politiques publiques et de se coordonner dans l'action. Nous devons aujourd'hui inventer quelque chose de nouveau, une manière nouvelle de débattre, pas une nouvelle institution, mais la méthode pour bâtir ensemble et construire ensemble.
Emmanuel Macron, qui a fini par convaincre les 8 associations d'élus de venir, 5 thèmes seront au cœur des débats, l'éducation, la santé, le plein emploi, le grand âge et la transition écologique, dans un dialogue interactif, franc et sans filtre, promettons du côté de l'Élysée. Ce sera surtout sans micro ni caméra, car cette première réunion, initialement censée être transparente, se déroulera à huis clos.
Jacques Serret depuis Marcoussis dans l'Essonne pour Europe 1. Dimitri, savez-vous ce qu'est un iguanodon ?
Ah ben c'est un reptile, non ?
Ben je donne un petit indice.
Dinosaure.
Ben voilà, bingo. Un herbivore qui vivait il y a 145 millions d'années. L'un d'entre eux a été retrouvé aux États-Unis dans un état de conservation exceptionnel. Son petit nom, c'est Zéphyr. Oh. Il sera mis en vente aux enchères à Drouot à Paris le 20 octobre prochain. Et hier, il a été présenté au public découverte. Marie Jiquel.
Cela ne s'invente pas. C'est près d'une ville aux États-Unis nommée Dinosaure que le fossile Zéphyr a revu la lumière du jour. Alexandre Jiquello, commissaire priseur.
Il va être de plus en plus compliqué de trouver des grands spécimens. Donc aujourd'hui, on doit se concentrer sur toujours sur cette matière tout en gardant l'espoir de trouver un tyrannosaure.
Debout sur ses pattes arrière, le squelette de 3 mètres de long semble prêt à bondir.
On regarde si les gamins, ils ont peur. C'est un grand test pour voir si on a bien choisi la position.
Jacopo Briano est expert en paléontologie. Armé de patience, il monte et démonte les os de Zéphyr.
Vous n'êtes jamais énervé à monter le dinosaure ?
Oui, je m'énerve toujours. C'est un cauchemar. Je casse toujours quelque chose. Les dinosaures, ils se retrouvent dans des centaines de morceaux. Alors là, c'est une gigantesque puzzle.
Il faut enlever la poussière.
Ça, c'est la chose la plus difficile.
Estimé à 500 000 euros, il reposera sans doute dans un luxueux salon où il pourra continuer à faire de vieux os.
Une bonne idée, un dinosaure dans un salon. Marie Jiquel.
Jolie, jolie chute. Merci Fanny Marceau. Dans un instant, sur Europe 1, restez avec nous. Bernard Accoyer, président de l'association Patrimoine Nucléaire Climat. Je mets les mots dans le bon ordre. Et l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1.
8h13, votre invité Sonia Mabrouk est l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui président de l'ONG PNC France.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Bernard Accoyer.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Comment la France, qui était un pays exemplaire pour sa fiabilité en matière d'électricité et qui avait une électricité bon marché, comment notre pays en est arrivé là aujourd'hui ?
De façon extrêmement
surprenante et inquiétante. L'autorité qui aurait dû alerter le gouvernement a laissé fermer 12 gigawatts de puissance pilotable, c'est-à-dire des centrales que l'on met en marche lorsqu'on a besoin d'électricité. Parce que dans un système électrique, ce qui compte, c'est de pouvoir répondre à la demande, et en particulier à ce que l'on appelle la demande de pointe, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de demandes en hiver qui fait froid.
Il y a eu des alertes, Bernard Accoyer, il y a eu des alertes de la part de techniciens, d'ingénieurs qui s'y connaissent parfaitement dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'on est resté sourd à ces mises en garde de spécialistes? Pourquoi cette chape de plomb?
Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a eu une idéologie qui a infiltré, qui petit à petit a persuadé l'opinion, qui est rentrée dans des services, y compris les services de l'État, dont certaines associations sont même financées, subventionnées par des entreprises qui elles-mêmes sont financées par les consommateurs d'électricité ou par des services du ministère qui sont financés par nos impôts. Et ils ont imposé une idéologie anti-nucléaire. Bien sûr, le nucléaire est une technologie qui exige des mesures de précaution, mais elles sont parfaitement connues. Aucune technologie de production d'électricité n'est autant surveillée, d'ailleurs, ni aucune technologie.
Nous allons en parler. Vous avez publié, Bernard Accoyer, il y a quelques temps, quelques mois, un livre intitulé « Une affaire d'État, la tentative du sabotage du nucléaire français ». Sabordage, sabotage ou inconscience ou mauvais choix ? Est-ce que le scénario était écrit à l'avance? Nous avons besoin de savoir, parce que nous vivons une situation compliquée. On nous parle de rationnement, de coupure à venir. Est-ce que le scénario était écrit à l'avance?
Hélas, je pense que oui. En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je suis entouré d'experts qui sont des scientifiques du nucléaire, de la physique nucléaire, des ingénieurs du système électrique. Et cela même s'exprimait depuis des années en expliquant qu'il fallait garder des capacités de production d'électricité pilotable pour pouvoir faire face à ce que l'on appelle un aléa, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, aux difficultés d'aujourd'hui. Ils n'ont pas été entendus, ni par RTE, qui est l'organisme chargé de l'équilibre du réseau.
C'était pourtant son rôle de les écouter.
C'est sa mission, effectivement, car ce n'est plus EDF qui est désormais responsable de l'équilibre du réseau.
Contrairement à ce qu'on dit, parce que là, EDF a bon dos.
Oui, évidemment, alors qu'il faut saluer le travail énorme qui est fait par les équipes d'EDF, qui font tout pour que cet hiver, il y ait le maximum de capacité de production dans un contexte qui est très difficile. Donc, c'est ça la cause. Donc, ces avertissements n'ont pas été entendus par RTE, ils n'ont pas été entendus par la CRE, Commission de Régulation de l'Énergie, ils n'ont pas été entendus par les services du ministère de l'Environnement qui, depuis 2007, sont également devenus responsables de l'énergie et avoir mis dans ce ministère l'énergie qui y est vue comme un procédé qui a des effets sur l'environnement n'était pas une bonne décision, mais c'était sous la pression de l'écologie politique.
On va en parler, cette pression, mais il y a un nom, Bernard Accoyer, en ce moment évidemment, qui résonne, la centrale de Fessenheim. Est-ce qu'elle nous manque cruellement aujourd'hui? Est-ce que sa seule fermeture a contribué en partie à nous mettre dans cette situation?
C'était 1,8 gigawatt, oui. Donc c'est effectivement important. C'était une centrale qui n'aurait pas été concernée par l'incident qui est en cours de réparation de la corrosion sous contrainte, qui n'est d'ailleurs pas un incident lié au vieillissement, mais qu'un incident comme on peut en trouver dans la conception d'un véhicule, d'un avion, d'un robot, et qui appelle des mesures de précaution. Et donc cette centrale, oui, elle manque, bien entendu. Deuxièmement, il y a eu aussi beaucoup de fermetures de centrales fossiles, à charbon, ne servait que quelques heures dans l'année, quelques centaines d'heures au maximum. Et RTE a laissé fermer ses centrales alors qu'elle aurait dû dire qu'il ne fallait pas donner l'autorisation.
Mais est-ce qu'il y avait des raisons, par exemple, pour Fessenheim? Vous avez entendu Bernard Accoyer, le président de la République, affirmant entre autres que les travaux de maintenance n'étaient plus réalisés, et cela depuis déjà presque 5 ans.
Alors, il est sûrement mal informé parce que c'est tout à fait inexact.
Le président mal informé
sur ce sujet ?
En réalité,
il y a eu 700 millions de travaux de maintenance qui ont été effectués entre 2012 et 2019. Et 300 millions les 4 dernières années.
Monsieur Bernard Accoyer, le président de la République ne peut pas être informé à ce sujet. Ou c'est une fausse information qu'il délivre,
Je pense qu'il y a toujours dans les rouages des ministères et dans les rouages de l'exécutif des personnalités qui sont foncièrement antinucléaires et qui peuvent effectivement conduire à ce que des personnalités, des très hautes personnalités, disent des choses qui sont inexactes. Mais ce qui compte, Sonia Mabrouk, maintenant, c'est ce qu'il faut faire.
Oui, mais alors quoi ? Relancer puissamment la filière industrielle nucléaire française ?
Alors, d'abord, et cela a été très bien dit tout à l'heure par Baptiste Morin, il faut prendre des décisions qui permettent d'accélérer la sortie de cette crise, c'est-à-dire reconstruire des puissances de production pilotable.
Mais comment, justement ? Vous avez entendu notre journaliste, il dit que la relance n'est absolument pas pour tout de suite,
effectivement, c'est pour ça que j'ai adressé hier un courrier aux parlementaires afin qu'ils se saisissent de l'urgence du problème et qu'ils fassent les choses dans le bon ordre. On a toutes les données, ça peut se faire en quelques semaines ou quelques mois maximum. Un, on identifie les causes, nous venons de les dire, nous manquons de puissance pilotable. Deux, on élabore un plan qui nous a manqué cruellement sur des données qui ne sont pas des données militantes, sous-estimant les besoins, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et ce plan, on le met immédiatement en œuvre en changeant la législation qui aujourd'hui est encore une législation.
Un plan, une vision, modification de la législation, mais vous oubliez ce que vous dénoncez d'ailleurs depuis tout à l'heure, Bernard Accoyer, ce que vous parlez d'ailleurs dans votre livre, des lobbies antinucléaires qui ont un pouvoir et une influence, certains disent une nuisance, certaines jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, elles sont encore là.
Ah, il y a encore des personnalités qui effectivement ont contribué à placer la France dans la situation où elle est. Mais je reprends, il faut tout de suite changer une législation qui prévoit encore, il est possible avec cette législation, de fermer encore 12 réacteurs. Il y en a déjà eu deux qui ont été fermés en 2020. L'année précédente, on avait fermé, peut-être vous m'en parlerez, un réacteur expérimental de quatrième génération. Et donc, il y en a encore 12 qui pourraient être fermés. Tout ça est évidemment complètement fou par rapport aux réalités. Mais effectivement, les ingénieurs, les scientifiques annonçaient ces difficultés. Ils n'ont pas été entendus.
Que faut-il faire justement avec ces réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides, comme on dit ?
Alors, actuellement, nous sommes sur une troisième génération qui est partagée dans le monde entier, qui a solide expérience, qui est robuste. L'EPR, c'est cette génération avec des mesures de sûreté qui sont absolument majeures. Quant à la quatrième génération, qui réalise ce qu'on appelle la fermeture du cycle de l'uranium, elle a été pensée, imaginée depuis le début de l'histoire nucléaire française, et elle conduit à utiliser les déchets des réacteurs des générations précédentes comme combustible. Et comme ce sont des surgénérateurs, ces réacteurs de quatrième génération, ils fabriquent au moins autant, sinon plus de combustible qu'on leur en donne. Donc, en même temps, ça réduit le problème en grande partie, en très grande partie des déchets. Et surtout, la France dispose d'une réserve de combustible gratuite de plusieurs milliers d'années. Alors évidemment, la quatrième génération, c'était la cible de l'écologie politique. Elle a eu sa peau en faisant fermer Superphénix par le gouvernement Jospin.
Elle a eu sa peau, c'est-à-dire il s'agit de scalps, d'offrandes qu'on a fait à l'écologie.
Oui, c'est un très grand physicien qui a employé cette expression, qui connaissait bien tous ses acteurs, Hervé Niefenecker, auquel je tiens à rendre hommage aujourd'hui, alors qu'il se bat contre la maladie. Et oui, en 97, ils ont eu la peau de Superphénix qui était raccordé au réseau. Certes, c'était encore un premier de série. Et puis, on a recommencé en 2019 en fermant Astrid, que Chirac avait voulu créer pour que la France reste dans cette compétition. Tous les pays du monde se remettent, tous les grands pays du monde se remettent au nucléaire, que ce soit les USA, Japon.
Qu'est-ce que vous répondez, Bernard Accoyer ? Il faut qu'on écoute les différents arguments à ceux qui mettent en avant la question de la sûreté des centrales, qui nourrissent une forme de peur également.
Mais de toute façon, tous les organismes qui fonctionnent un peu sur le mode sectaire instrumentalisent les peurs. Oui, bien entendu. Encore une fois, le nucléaire comporte des risques. Mais aucune technologie n'est autant surveillée, aussi sûre. Et de surcroît, la France, avec l'autorité de sûreté nucléaire, a l'autorité la plus exigeante, la plus lourde du monde. C'est une bonne chose, il faut le prendre comme ça. Et donc, la sûreté, elle est assurée. Et c'est la technique de production d'électricité qui, dans le monde, a fait le moins de victimes par rapport au charbon, par rapport au gaz, y compris par rapport au solaire, parce que quand on installe des panneaux, on peut tomber du toit. Et quand on additionne tout ça, malheureusement, y compris avec le drame de Tchernobyl, qui était un drame lié à une technologie qui n'est plus utilisée depuis très longtemps, avec une centrale qui n'était plus sérieusement ni contrôlée, ni pilotée par des gens compétents, qui est arrivée. Donc voilà,
alors,
la sûreté.
Ça, c'est l'argument de la sûreté.
Ça, c'est la sûreté.
Autre argument qui est souvent opposé, c'est comment sécuriser les approvisionnements en uranium. Vous avez entendu, par exemple, le socialiste Olivier Faure qui dit « on va se fournir en uranium en Russie, qui a un risque de dépendance ».
Là encore, il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. D'abord, les mines d'uranium sont réparties un peu partout sur la planète. Il y en a aussi beaucoup au Canada. Et il y en a dans différentes parties du monde, tous les continents. Et puis surtout, la France dispose de plusieurs années de réserves d'uranium, pour ce qui est de l'uranium qu'on utilise actuellement dans la troisième génération. Et encore, je vous l'ai dit, plusieurs millénaires, si on développe, comme il le faut, le nucléaire durable, la quatrième génération, durable au sens onusien du terme, au sens de la charte de l'environnement, c'est-à-dire un process qui répond aux besoins d'une génération sans empêcher les générations suivantes de pouvoir répondre à ses propres
besoins. Dans ce cas-là, ça s'appelle une énergie d'avenir.
Mais bien entendu, et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les grands pays du monde se tournent à nouveau vers le nucléaire, y compris le Japon. Et...
Vous dénoncez, Bernard, quoi, l'infiltration des anti-nucléaires. Dans votre livre, c'est même, vous dénoncez, j'allais dire, sévèrement. Vous mettez la plume là où ça fait mal, avec une tentative de sabordage. Les mots sont forts. Et vous connaissez l'expression « d'où parlez-vous » vous-même, Bernard Accoyer. Vous êtes le président de PNC France, Patrimoine Nucléaire et Climat. C'est une association, une ONG de défense de notre patrimoine nucléaire. Est-ce que c'est aussi un lobby, à votre manière, pro-nucléaire également. Est-ce qu'il faut opposer, justement, au lobby anti-nucléaire d'autres lobbies dont vous feriez partie? C'est une question que je vous pose.
Nous défendons un patrimoine. C'est un patrimoine scientifique et la France a apporté une très très grande contribution à la maîtrise de l'atome, de la fission. Deuxièmement, c'est une association, une ONG qui n'a aucune subvention. Nous fonctionnons uniquement avec les cotisations de nos membres et par le bénévolat, à la différence de toutes ces grandes ONG internationales antinucléaires, dont les financements sont parfois pas très clairs et proviennent de l'étranger, et qui mériteraient d'ailleurs certainement une analyse extrêmement sérieuse. Et également, à la différence de toutes les associations antinucléaires, qui sont également financées assez souvent par des subventions et qui s'autoproclament comme disant la vérité. Mais c'est très difficile de défendre ce qui est rationnel.
Mais c'est la question que j'allais vous poser. Vous le faites aujourd'hui, on entend de plus en plus d'alertes, on l'a dit, de la part de politiques, de techniciens et d'ingénieurs. Mais où étaient-ils toutes ces personnes, toutes ces alertes il y a quelques années? Pourquoi à ce moment-là, vous avez cité RTE et d'autres qui n'ont pas écouté, mais vous étiez vous-même dans le sérail, au cœur de l'action politique, dans le chaudron véritablement. Pourquoi est-ce que d'autres voix, des garde-fous, ne se sont pas élevées plus fortement?
Parce que le travail qui a été effectué depuis des décennies par les associations antinucléaires a imprégné et avait imprégné l'opinion, les médias, les observateurs, et que la maîtrise scientifique dans les rédactions est quand même moins importante qu'elle a pu être à d'autres moments. Et puis, et ça a été l'objet d'une de mes dernières initiatives parlementaires, la science n'a plus la place qu'elle aurait toujours dû garder au moment de la décision publique. Et les idées, les idéologies, bien souvent, ont suppléé la place de la science. C'est ce qui explique la situation dans laquelle nous sommes, où une idéologie a rendu inaudibles les scientifiques, les techniciens qui donnaient l'alerte depuis longtemps.
Pour conclure, on a envie de dire quel gâchis, mais peut-être qu'on peut aussi, j'allais dire, porter un espoir, dire que la France peut retrouver cet atout compétitif, une électricité fiable et bon marché.
Il le faut, et pour cela, il faut que les parlementaires se mettent au travail, changent les textes qui sont en vigueur. C'est faisable, c'est une question de volonté politique, et ça permettra de réaliser ce qu'a dit le président de la République lui-même dans son discours de Belfort, car pour le moment, il n'y a que le discours et le texte annoncé ne concerne que les énergies renouvelables qui ne résoudront pas le problème.
Donc il faut passer des paroles aux actes. Merci Bernard Accoyer d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.
Merci Bernard Accoyer, merci Sonia Mabrouk. Il y en avait encore des questions sur le nucléaire. Vous savez qu'EDF s'est engagé à redémarrer tous ses réacteurs pour cet hiver. Comme il y a des gens qui doutent de la possibilité, est-ce qu'il y a un arbitrage à venir entre sécurité d'approvisionnement et sûreté nucléaire? Ça, c'est une immense question. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler dans Europe Matin et sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous. Ben justement, le nucléaire, c'est le thème du billet de Géraldine Vosner. Elle est notre signature du jour dans quelques minutes. Avant, Emmanuel Ducrot et le Club de la Presse. À tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h31 sur Europe 1, Christophe Lamarre pour les dernières informations.
14 000 foyers toujours privés d'électricité dans le Var après les orages de la nuit. Les pompiers du département indiquent n'avoir pas eu d'intervention significative à faire. Il faudra attendre encore un peu pour une évaluation plus précise des dégâts. Coup d'envoi dans une heure du Conseil national de la refondation à Marcoussis. Emmanuel Macron ouvrira la session de ce premier rendez-vous boudé par les oppositions. Une cinquantaine de participants sont annoncés. Les débats se tiendront à huis clos. Sur les masques, nous nous sommes trompés. Le mea culpa d'Olivier Véran ce matin dans les colonnes d'Aujourd'hui en France, Le Parisien. L'ex-ministre de la Santé et actuel porte-parole du gouvernement reconnaît des erreurs dans la gestion de la crise sanitaire. Au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre Liz Truss va dévoiler devant le Parlement britannique son plan anti-crise énergétique. Il prévoit un gel des factures de gaz et d'électricité ainsi qu'un paquet de mesures supplémentaires. L'ensemble devrait coûter plus de 110 milliards d'euros aux caisses de l'État. Deux enquêtes ouvertes à Nice après la mort d'un homme abattu par des policiers pour un refus d'obtempérer, une affaire qui survient au lendemain du décès d'une femme de 22 ans, tuée lors d'une opération anti-drogue. À l'US Open, qualification cette nuit pour les demi-finales de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek et Darina Sabalenka. L'américain Frances Tiafoe rejoint lui aussi le dernier carré dans le tableau masculin. La dernière représentante française, Caroline Garcia, tentera elle aussi de se qualifier pour les demi-finales la nuit prochaine face à la Tunisienne Ons Jabeur. Le parcours de Caroline Garcia, on en parlera ce soir dans Europe 1 Sport dès 20h. Émission par ailleurs consacrée aux décideurs du sport. Virginie Fulpin recevra la présidente du Comité national olympique et sportif français à cette occasion, Brigitte Henriques.
Et Jacques Vendroux également sera autour de ce micro, je précise.
Et il faut quand même effectivement le signaler. Départ manqué pour l'OM, il parlera aussi du football, tiens Jacques Vendroux. Départ manqué pour l'OM en Ligue des Champions. Les Marseillais battus 2-0 sur la pelouse de Tottenham. Quatre clubs français sont engagés aujourd'hui en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Nantes, Rennes, Monaco et Nice.
Merci beaucoup.
On en parlera aussi bien sûr ce soir dans l'Europe 1 Sport.
Mais évidemment, merci beaucoup Christophe. 8h33, le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Dadissé, le fait météo du jour. Les températures commencent à baisser.
Hein. Vous l'avez peut-être déjà senti ce matin, même si ce n'est pas le matin que la baisse est la plus significative. On a 10 à 22 degrés comme depuis le début de la semaine, mais cet après-midi, vous allez le ressentir. 19 à Boulogne-sur-Mer, 20 degrés à Brest et à Quimper, 22 pour Aurillac et Belfort, 23 à Paris, Clermont-Ferrand et Colmar, 25 degrés à Bordeaux, 26 pour Lyon. Ça reste chaud dans le sud avec 29 degrés à Marseille, 31 pour Ajaccio et 33 à Nice. Alors sur la moitié nord, ça va rester stationnaire ces températures entre 22 et 26 degrés. Mais dans le sud, dès ce week-end, Dimitri, les températures vont remonter et dans le sud-ouest, ce week-end, on devrait avoir 33 à 35 degrés, ce qui est très rare, quasi jamais vu pour une mi-septembre. 35 degrés dans le sud-ouest, on aura l'occasion d'en reparler. Dans le ciel, c'est le retour du soleil dans le sud-est après les violents orages d'hier. Sur le quart nord-ouest, aujourd'hui, on a beaucoup d'averses, quelques coups de tonnerre, beaucoup de vent sur les côtes de la Manche. Ailleurs, c'est mitigé. On a un ciel partagé entre nuages et éclaircies.
L'été interminable, décidément.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Anissa. 8h34.
7h, 9h.
Europe Matin.
Les signatures Europe 1, et comme tous les jeudis, c'est Géraldine Vosner qui est avec nous. Bonjour Géraldine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Ce matin, quand les politiques réécrivent l'histoire.
Oui, ça m'a frappé cette semaine en écoutant le président Macron ou le patron du PS, Olivier Faure, parler de la crise énergétique en expliquant des choses aberrantes. Je me suis dit, ça y est, on a plongé dans l'ère de la post-vérité. On s'est fichu de la tête des Américains pendant 5 ans avec Trump. Hein, et voilà qu'on se retrouve avec des dizaines de petits Donald sur les plateaux télé qui racontent n'importe quoi. Ça passe. passe. Les faits ne comptent pas plus aujourd'hui qu'une simple opinion.
Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour vous mettre en rogne comme ça ?
Mais des choses fausses, inexactes, pas vraies, du bullshit, comme on dit à Washington. Le président, tenez, nous a parlé comme depuis une autre planète sur laquelle sa politique énergétique serait parfaitement cohérente. Avant l'hiver dernier, rappelez-vous, il voulait fermer 12 centrales, il a éteint Fessenheim, l'équivalent du tiers de la consommation du Danemark, hein, quand même. Pour ça, il est critiqué et ça ne lui plaît pas. Mais plutôt que d'expliquer qu'il a pris une décision politique pour flatter ses alliés, Nicolas Hulot, Barbara Pompili, il invente une fable, affirme qu'il n'y avait pas eu de travail de maintenance à Fessenheim depuis plus de 5 ans, que la décision de la fermer était rationnelle.
Et ça, ça n'est pas vrai.
Ben non, en vrai, EDF a payé 300 millions de rénovation juste avant la fermeture. L'autorité de sûreté nucléaire a jugé en 2019 que Fessenheim était en bon état de marche. La fermer, non, c'était pas une décision rationnelle. Et c'est pas grave, on peut prendre des décisions politiques. Les gens avaient voté pour ça d'ailleurs. Mais les justifier en invoquant une pseudo-rationalité, c'est discréditer toute la science.
Alors Emmanuel Macron n'est pas le seul à tordre les faits ces derniers temps à propos du nucléaire.
Hein. Non, le relativisme gangrène tout. Sur le même sujet clivant, on a vu Olivier Faure, patron du PS quand même, un parti de gouvernement, soutenir que la France dépend de la Russie pour son nucléaire, qu'elle ne sait pas enrichir, transformer, assembler l'uranium. Tout est faux.
Oui.
L'uranium, on le transforme en France, on l'enrichit au Tricastin. Depuis 58 d'ailleurs, Dimitri, parce que je vous rassure, c'est nous qui fabriquons nos bombes, hein. c'est pas les Russes. On l'assemble à Romans-sur-Isère, on retraite nos déchets. La France, en vrai, est l'un des rares pays au monde à maîtriser tout le cycle du combustible, de l'extraction au recyclage, c'est un héritage du général de Gaulle. Alors quand même, je me suis demandé auprès de qui M. Faure prenait ces infos. Je l'ai appelé et c'est intéressant. Figurez-vous qu'il a travaillé pour un sous-traitant du nucléaire, M. Faure. Il sait parfaitement que la France est indépendante. Il est pour d'ailleurs préserver l'atome, mais comme il a fait alliance avec les Verts et avec la NUP qui sont contre, quelquefois, il bug. Et sous la pression des journalistes, m'a-t-il dit, il s'est mal exprimé en voulant frapper les esprits. En fait, il a fait du Trump, hein, comme Sandrine Rousseau et d'autres en font tous les jours. On dit une énormité, un buzz. On parle de vous.
Vous allez dire à Sandrine Rousseau qu'elle fait du Trump, elle va adorer. Il y a quand même des victimes dans cette histoire. Ce sont les faits.
Mais oui, personne n'a corrigé M. Faure sur le plateau. Personne n'a souligné l'incohérence de son raisonnement. Il veut qu'on sorte de notre dépendance à des pays douteux en passant aux renouvelables. Sans penser une seconde que l'Europe dépend à 99% d'autres continents pour les matériaux critiques qui composent les batteries au lithium, les éoliennes, les moteurs électriques. C'est de cela dont des dirigeants politiques devraient discuter sur les plateaux. Or, c'est devenu impossible. Et on en vit les conséquences. La crise actuelle, personne ne l'a anticipée. La population, les électeurs n'ont plus accès à une information fiable et utile au vote.
Si je vous comprends bien, Géraldine, quand le relativisme touche comme ça le sommet de l'État, les partis classiques, il faut s'affoler.
Il faut qu'on s'insurge même. Parce que nier la vérité, c'est détruire notre socle commun. Les faits, ils sont là, ils s'imposent et qu'on soit d'accord ou pas, on est bien obligé de les mettre sur la table, les faits, pour les analyser ensemble. On va s'engueuler peut-être, mais sur des bases rationnelles. La rationalité, c'est la discussion. Et à l'inverse, les convictions ou les sentiments, ça ne se discute pas. Une conviction, ça ne se remet pas en question. Elle sait la conviction, elle n'a pas besoin des faits. Et quand au sommet de l'État, on commence à les nier, par facilité sans doute pour tuer la critique, quand les spécialistes en termes techniques ne peuvent pas être entendus, les discours fantaisistes risquent de se multiplier. Et c'est ça, puisque vous me le demandiez tout à l'heure, qui me met vraiment en rogne, parce que c'est un boulevard pour tous les populismes.
Merci Géraldine Vosner, qui en avait des choses à nous dire cette semaine, décidément. Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
J'ai l'impression que la chronique se poursuit. Notre voyage en absurdie, vous nous emmenez ce matin au pied des Alpes. Vous allez nous parler de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Alors c'est un vrai serpent de mer, hein, ce tunnel de 57 km sous les Alpes, qui fait l'objet de positions multiples depuis des années.
Ah oui, ça fait 30 ans que ça dure. Chaque semaine ou presque, on peut ajouter un nouvel argument farfelu à l'inventaire à la Prévert des griefs contre ce tunnel. C'est la foire à la saucisse. À Grenoble, le week-end dernier, manif anti-tunnel. Le maire Éric Piolle a expliqué, je cite, c'est une citation, c'est important. Le tunnel revient à reporter à plus tard la nécessaire bascule du camion vers le train. Sachant que le tunnel a pour but de mettre sur des trains 1 million de camions par an, d'économiser un tiers du trafic routier, j'ai envie de dire, punaise, ça déraille totalement.
Lui aussi, il joue un peu avec les faits, apparemment. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il y est allé de sa créativité anti-tunnel.
Ah oui, pas plus tard que mardi. Il a donné une interview au site Reporter. Il fustige le tunnel avec un argument dont je ne me suis personnellement toujours pas remise. Son gendre lui a dit, je cite, que c'est une catastrophe écologique parce que toute l'eau qui est dans les Alpes descend dans le trou qu'on creuse à 120 litres par seconde. On est en train de vider le contenu d'eau des Alpes. C'est une citation.
D'où sort cette idée?
Je ne ferai pas l'insulte à nos auditeurs de rappeler à quoi ressemblent les Alpes. Ce ne sont pas une baignoire à fond plat avec un siphon. Je leur dirais plus factuellement que ça ne repose sur strictement rien. Aucune étude hydrographique, géologique. Mais l'eau, c'est un sujet à la mode. Alors si on peut rajouter une petite louche au dossier Lyon-Turin, pourquoi se gêner? Sur un malentendu, comme on dit, ça peut marcher.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des arguments quand même valables contre ce tunnel, Emmanuel? Il y en a un déjà, par exemple.
Oui, c'est vrai, il y a déjà un tunnel. Mais il est étroit, il est vétuste, il n'a qu'une galerie. Ça veut dire qu'il ne répond plus aux critères de sécurité. Donc il faudrait le doubler et ça coûterait extrêmement cher. Sa capacité est limité. Et puis surtout, il est en altitude ce tunnel, alors que le nouveau tunnel, lui, il est au pied de la montagne. C'est ce qu'on appelle un tunnel de base. La différence, c'est l'énergie qu'on dépense à tirer des trains dans la pente. C'est colossal, c'est inutile et surtout, ça ne permet pas de développer le ferroutage. Et pourtant, c'est le but.
Un fait incontestable quand même, Emmanuel, c'est que ce tunnel, il est affreusement cher.
Oui, alors ça c'est vrai, on peut discuter du coût. 8,6 milliards d'euros, 1,8 milliard pour la France, 2,4 pour l'Italie. Mais tout est financé notamment par des fonds européens. Le maire de Lyon, David Doucet, qualifie le tunnel de grand projet inutile et de gaspillage de ressources.
C'est Grégory, je crois, pardonnez-moi, Grégory Doucet.
Grégory Doucet, notre confrère David
Peut-être
Doucet.
Peut-être David Douillet, je sais pas.
Grégory Doucet, pardon. Mais inutile en quoi? À un moment où la lutte contre le réchauffement est cruciale, supprimer les émissions d'un million de camions des vallées alpines qui étouffent un tiers des camions en moins, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main au motif du coup, il faut savoir ce qu'on veut.
Est-ce que tout ça peut faire capoter ce projet de tunnel?
Ça, c'est ça qui ne manque pas de sel, Dimitri. Parce que tout le monde fait comme s'il n'existait pas, ce tunnel. La construction est en cours, on en a déjà excavé un cinquième. Il doit être terminé en 2030. C'est un combat totalement fantoche.
Mais enfin, on peine à comprendre pourquoi il y a tant d'opposition contre ce tunnel Lyon-Turin.
C'est d'autant plus difficile à comprendre qu'il répond à un vrai, vrai besoin de décarbonation de la route. Et qu'au mi-temps des années 2000, les Verts défendaient le projet. Ils déploraient même le manque d'informations le concernant. C'est piquant tout de même. C'est toujours le cas des Verts locaux d'ailleurs, qui eux en veulent bien du tunnel. Mais depuis, l'anticapitalisme, l'idée de la décroissance ont façonné l'idéologie verte.
Ah oui,
un tunnel,
d'accord.
C'est une ouverture au commerce, à l'échange. Il faut tout faire pour le décourager, quitte à se priver des bénéfices environnementaux et à oublier le mantra, le climat. Mmh. Il faut ne lui trouver aucune vertu, au besoin lui inventer des défauts, ça s'appelle se moquer du monde.
Ah oui, parce que moi, il me semblait que les Verts étaient pour le ferroutage, Géraldine Vosner, mais peut-être que je me trompe, non?
Non, tout à fait, pour le ferroutage, mais contre, et comme le dit Emmanuel, les échanges, le but c'est la décroissance,
oui.
C'est qu'il n'y ait plus de camions.
Merci mesdames. Ma réflexion a fait un bond d'un coup sur le nucléaire et les tunnels en l'espace de quelques minutes. Merci à toutes les deux. Bonne journée et à lundi Emmanuel. À la semaine prochaine Géraldine. Dans un instant, le club de la presse, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et David Revaud-Dallone du journal du dimanche. À tout de suite.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h46, on le disait, effacé, un peu noyé, dans un costume peut-être trop grand pour lui. Pape Ndiaye a-t-il pris enfin la mesure du poste qu'il occupe? Est-ce qu'il entend maintenant mettre sa touche à la politique éducative d'Emmanuel Macron? Selon une information de France Inter, le ministre de l'Éducation nationale entend relancer la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Revoilà donc le sujet sensible de la déconstruction des stéréotypes de genre au nom de l'égalité des chances entre filles et garçons, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, mais aussi contre le racisme, l'antisémitisme, les LGBT-phobies. Voilà ce que disait le ministre lors de sa conférence de presse de rentrée fin août. Est-ce que c'est le retour des ABCD de l'égalité? On va en parler ce matin avec David Revaud-Dallone, le chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour David.
Bonjour Dimitri.
Et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Je vous propose de réentendre Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes le 29 janvier 2014 et c'est sur Europe 1. Écoutez.
Vous savez, la vocation de l'école, c'est d'apprendre. D'apprendre quoi aux enfants? D'apprendre à lire, à compter, à écrire. D'apprendre aussi les valeurs de la République. que parmi les valeurs de la République, il y a la liberté, l'égalité, la fraternité. L'égalité, c'est notamment l'égalité entre les filles et les garçons. C'est cela qu'on apprend aujourd'hui à l'école aux enfants.
Voilà, on est fin janvier 2014. Elle présente, Najat Vallaud-Belkacem, ce qui est la motivation du fameux ABCD de l'égalité qui va connaître une histoire un peu tortueuse contre qui va se dresser un front assez important. Des parents qui retirent leurs enfants de l'école, des manifestations, beaucoup de fake news aussi, il faut le dire quand même dans cette histoire. 6 mois plus tard, juin 2014, l'ABCD en question est retiré d'une manière un petit peu d'ailleurs un peu trouble. On dit qu'on va les perfectionner. Finalement, ça disparaît. Et voilà que 8 ans plus tard, ça revient à travers Papendia. Faut-il être surpris, David Revaud-Allonne ?
Alors moi, ce qui me surprend d'abord, c'est que, et ça pose une fois de plus la question du sens politique du macronisme, c'est que Jean-Michel Blanquer, en arrivant en 2017, avait largement fustigé cette initiative qui d'ailleurs remonte plus à Vincent Peillon qu'à Najat Vallaud-Belkacem, puisqu'elle avait hérité du poste, souvenez-vous, quand Benoît Hamon avait explosé en vol 6 mois après sa nomination en 2014. Quel est le sens exact de la politique éducative dans le macronisme ? Jean-Michel Blanquer semble être à l'exact opposé de ce que veut faire Papendia, puisque on voit qu'il remet sur le métier ce dossier-là. Après, sur le fond, quelques remarques. D'abord, on commence à s'apercevoir que cette rentrée scolaire, elle s'est peut-être pas aussi bien passée que prévu, notamment du point de vue du nombre d'enseignants et de la présence. On sait qu'il y a des enseignants qui manquent dans énormément de classes, que beaucoup de personnel, beaucoup de syndicats enseignants commencent à s'en émouvoir.
Donc, le Figaro parle d'un bilan mitigé de la rentrée ce matin.
Je trouvais cet article assez juste, étant moi-même parent d'élèves. Je me demande si c'était vraiment la priorité. Après, sur le fond, ça ne me gêne pas. Je trouve que qu'on lutte contre les stéréotypes de genre, contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, ça me semble être assez naturel qu'on le fasse à l'école. Après, toute la question est de savoir dans quelle proportion et selon quel terme. Vous citiez vous-même la façon dont ça s'était passé en 2014.
Avec j'ai fait un résumé à très gros traits.
Il y avait eu énormément de conflictualité avec notamment deux parties. D'une part, les associations de défense des associations LGBT, et d'autre part, grosso modo, la manif pour tous, on va dire les courants un peu conservateurs. Il y a eu un affrontement extrêmement violent et je trouve extrêmement caricatural avec, vous le disiez vous-même, beaucoup de fake news. Ça avait été énormément caricaturé. Donc je pense que, pour conclure, je pense que ça ne me gêne pas qu'on remette ce dossier au cœur de l'école, que ça ne me gêne pas qu'on lutte effectivement contre tous les stéréotypes de genre et de discrimination. Après, attention à ne pas aller trop loin, attention à ne pas tomber dans la caricature. On avait beaucoup parlé de la théorie du genre, etc. Voilà, attention à ne pas aller trop loin. Et je pense que Papendia, c'est là-dessus qu'il va être jugé. On l'a beaucoup dépeint aussi en partisan des théories wokistes, etc. Même si lui, il faut le dire, il a quand même pris ses distances par rapport à ça. Est-ce que lui va tomber dans le panneau ou est-ce qu'il va éviter ce piège politique qui... je pense que le gouvernement, et on va en parler tout à l'heure, le gouvernement et le président Macron ont d'autres priorités, d'autres préoccupations en cette rentrée. C'est peut-être pas le moment de tomber dans ce panneau-là.
Alors justement, Charlotte Dornelas, on a des lectures c'est un peu étonnant. Le jour de l'installation du Conseil national de la refondation, qui se veut une instance de dialogue où on mettrait bas nos différends pour discuter au nom de l'intérêt supérieur du pays, on voit que se lance un débat extrêmement conflictuel sur des questions sociétales au moment où Emmanuel Macron aussi entend relancer peut-être quelque chose autour de la légalisation de l'euthanasie. C'est quand même frappant.
Oui, alors là, franchement, la conception du consensus d'Emmanuel Macron, on a déjà été prévenu précisément sur ce terrain. Quand Emmanuel Macron est élu, il dit qu'il y aura la PMA pour toutes si, au terme des états généraux de la bioéthique, nous arrivons à trouver un consensus. Phrase complètement idiote dans la mesure où il ne peut pas y avoir de consensus dans le pays entier, étant donné que les avis sont radicalement opposés sur ce sujet.
D'ailleurs, les camps autour de l'ABCD de l'égalité, sont à peu près les mêmes que sur le sujet PMA ou le sujet fin de vie.
Oui, c'est ça, ils sont les mêmes. Et là, et il avait dit à la fin des ABCD de l'égalité où Jean-François Delfrécy, à l'époque, qui organisait les états généraux de la bioéthique. Et Jean-François Delfrécy avait dit à la fin, il n'y a pas de consensus dans le pays, évidemment, puisque les états généraux avaient été composés de gens militants des deux côtés ou de gens au milieu qui essayaient de comprendre et qui finissait par se faire un avis d'un côté ou de l'autre. Et Emmanuel Macron avait dit, bah oui, mais finalement, on va plutôt s'en remettre au Conseil national d'éthique, qui lui, en 2005, s'y était opposé et qui là, par miracle, a rendu un avis positif sur le sujet. Donc à la fin, on se dit, bon, vous avez qu'à assumer ce que vous avez envie de faire, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc on comprend que c'est évidemment la même idée là-dessus. Mmh. Mais sur la question des ABCD de l'égalité, à mon avis, c'est pire que ce que vous dites, parce que si on se souvient bien, en 2013, il y a une opposition, en effet, la création de la Manif pour tous et des manifestations assez incroyables en termes de nombre dans la rue à ce moment-là. Quand arrivent les ABCD de l'égalité, ça n'est pas que la Manif pour tous, puisque là où les enfants sont déscolarisés, c'est dans les banlieues. C'est la communauté, notamment dans la communauté musulmane, qui a une énorme levée de boucliers, communauté qui avait assez peu participé à la Manif pour tous. Et à l'époque, moi je me souviens, alors c'est François Pupponi qui est maire de Sarcelles, à l'époque, qui décrivait et qui dit que ça a été une catastrophe. C'est le début des familles qu'on a complètement perdues. Alors en effet, peut-être qu'elles ont pour certaines exagéré la chose, mais là quand on entend Pape Ndiaye qui donne une interview au début de l'année, il y a quelques jours, et qui dit oui, une de mes priorités à l'école, ça va être l'éducation à la sexualité, on a envie de dire, mais alors moi je veux bien Najat Vallaud-Belkacem qui nous dit oui, évidemment, il faut lire, écrire, compter. Bah, commence par là, parce qu'en fait, on n'y est pas du tout.
Mais alors je rebondis sur ce que vous disiez, la presse à l'époque, hein, au moment de l'abandon de l'ABCD de l'égalité, enfin un abandon qui ne dit pas son nom, la presse va écrire que c'est la victoire de la convergence islamo-catholique. Très intéressant.
Oui, bah. Oui.
David Robaud-Dallon.
C'est vrai qu'effectivement, dans les banlieues, il y avait aussi des mouvements de rejet et des mouvements de retrait. Mais d'abord, sur le plan politique, souvenez-vous que François Hollande, certes, il a conduit le mariage pour tous à son terme, mais on a senti qu'il n'était pas très à l'aise. Je me souviens d'un discours devant le Congrès des maires où il avait semblé reculer en disant que les maires auront une liberté de conscience. Souvenez-vous, oui, ça avait d'ailleurs fait scandale au gouvernement et au Parti Socialiste en disant, mais attendez, quand on promulgue une loi, ben les maires sont censés l'appliquer, n'ont pas de droit de retrait. Ça, c'est la première chose.
Comme un médecin peut faire jouer sa liberté de conscience pour un avortement.
Oui, sauf que là, il s'agit d'élus et que donc et que la politique et que la loi étant votée, ben, les gens étaient censés l'appliquer. La deuxième chose, c'est que fort de cette mobilisation, c'est vrai que le mariage pour tous a réveillé quand même une mobilisation des anti extrêmement forte, à laquelle le pouvoir socialiste de l'époque ne s'attendait pas. C'est la raison pour laquelle il a reculé devant, le chapitre 2 que constituait finalement la fronde devant les ABC de l'égalité. Après, l'éducation à la sexualité, il faut quand même être un petit peu précis.
Oui. Il y a eu cette rumeur de cours d'éducation sexuelle avec démonstration dès la maternelle, ce qui était fake news.
Voilà, on avait même parlé, je crois, pardonnez-moi, on est le matin un peu tôt, mais on avait même parlé de cours de masturbation. Effectivement, c'était, je crois, une fake news totale. Après, l'initiation à la sexualité, c'est-à-dire, sans doute, respect des relations entre les hommes et les femmes, pas de sexualité violente, pas de violence sexiste, etc. Si on en reste là, pour moi, je trouve pas ça choquant.
La lecture, elle est plutôt économique et sociale, semble-t-il, parce que, vous voyez, ce que dit le ministère de l'Éducation, donc à France Inter, qui disait, voilà, le problème étant qu'aux garçons, on enseignerait l'idéal de la force, aux filles, la douceur et la soumission, je cite le ministère, là, qui les conduirait aux métiers moins bien payés, en l'occurrence les filles, et les détournerait des filières scientifiques.
Alors, en Suède, non mais c'est, en fait, ce jargon m'exaspère parce que d'abord, en Suède, ils ont tellement égalisé tout que les filles se sont naturellement repenchées vers les métiers des filles en termes de stéréotypes. On était au maximum, précisément au moment où tout le monde était arrivé à égalité totale. C'est vraiment le pays phare pour les progressistes. Donc, il y a peut-être quelque chose de naturel qui fait que moi, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. J'ai pas envie d'être ingénieur ou astrophysicienne. Bon, c'est comme ça. C'est pas un drame, c'est comme ça. Et le problème aussi, c'est que sur la question des violences sexuelles. Évidemment que cette éducation-là est importante. Alors on pourrait peut-être commencer par appliquer la promesse qu'ils ont fait de ne pas avoir de portable en cours. Ça évitera aux gamins de regarder du porno à l'école parce que là, en termes de violence, on est au maximum. Donc le problème, c'est une question de priorité. Et vous avez eu raison de rappeler qu'à la base, c'était Vincent Peillon. Vincent Peillon, dans son livre « La révolution n'est pas terminée », écrivait texto « Le rôle de l'école est d'arracher les enfants à leur déterminisme familial ». Alors, je ne sais pas si on se rend compte de la violence de cette phrase. Donc, l'école serait là pour arracher les enfants à ce que leur apprennent leurs parents, précisément sur les domaines de l'enseignement et non pas de l'instruction. Donc, l'école ne faisant plus son travail sur l'instruction, je trouve que les parents sont assez bienvenus de rappeler à l'école quel est son premier rôle et quel est le leur aussi pour leurs enfants.
David, mot de la fin.
Oui, je pense que déterminisme familial, il faut quand même préciser. Je pense que dans l'esprit de Vincent Peillon, il s'agissait d'abord et avant tout d'un déterminisme social. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que Emmanuel Macron, en 2017, a essayé de vendre comme promesse essentielle. essentielle, promis essentiel. Bon, souvenez-vous, c'était son fameux mot de l'émancipation par le travail et la fin de l'assignation à résidence sociale. C'est pas parce que vous êtes né dans tel ou tel quartier, telle ou telle famille, que vous devez suivre telle ou telle voie.
C'était plus large que ça, hein, je précise.
Ouais. Ben, je pense qu'on va en reparler de cette lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Rien que l'expression en soi, effectivement, elle est évocatrice.
Les
merci.
Poupées bleues.
Merci.
Et les camions roses.
Merci David Revaud-Dallone du Journal de Dimanche. Charlotte Dornelos, Valeurs Actuelles. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Je vous donne l'heure les Culture Média dans 5 minutes au programme.
Vous vous rappelez du rideau, il n'y a que la vérité qui compte.
Oui.
Tout le monde se souvient de ça. On n'ouvre pas le rideau.
Pascal Bataille, Laurent Fontaine.
Ouais. Exactement. Vous savez les reconnaître ?
Ah oui.
Je vous dirai le truc après.
Bataille le Grand.
L'émission a été supprimée de TF1 faute d'audience. Elle faisait quand même 3 à 4 millions de téléspectateurs en deuxième partie de soirée. Il y a des patrons de programmes qui vendraient leurs parents pour faire ces scores maintenant, même en prime time. Mais il faut dire qu'il y avait 6 chaînes, il n'y avait pas la TNT. À la suite de quoi, l'émission a disparu. Ils ont relancé l'émission sur les réseaux sociaux. Vous savez combien ça fait ? 2 milliards de vues.
Mais non.
2 milliards de vues. L'émission est même traduite dans toutes les langues avec des sous-titres, y compris le chinois, le russe, l'ukrainien. J'ai vérifié ce matin. Évidemment, l'espagnol, l'anglais, l'italien. Ils reprennent l'émission ce soir. Ils ont reboutiqué les meilleurs moments sur C8. Et si ça marche, peut-être ils vont faire une vraie émission fraîche. Ils seront avec nous dans ce studio pour leur première radio, Bataille et Fontaine. Et puis Toutou Youtou, je ne vais pas vous le refaire. Toutou Youtou, ouais. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas une émission qui revient. C'est une série diffusée sur OCS, très 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 attendue. La presse n'en dit que du bien. On sera avec les deux scénaristes. Et puis le comédien François Cluzet pour une comédie policière totalement déjantée. Ça s'appelle Canaille, c'est au pluriel, parce qu'il y a avec lui José Garcia, Pascal Demolon et je cite de mémoire Doria Tillier.
Oh, le meilleur du divertissement, c'est tous les matins chez vous. Mon cher Philippe, je vous écoutais.
Merci
hier
beaucoup.
Matin, j'arrivais pas à décrocher.
C'est vrai, bah, ouais. Tant mieux, c'était le but.
Ouais. Bah, c'est réussi, bravo.
Bonne fête. Il y a un pot et nous, on n'en sera pas. Voilà. J'ai bien remarqué qu'ils font les pots à la matinale entre 9 et 11 pour pas qu'on ait droit.
Exactement. Et bonne fête à tous les Adriens et les Adriennes, sachez-le, en ce 8 septembre. Bonne journée, excellente journée. Et on se retrouve demain matin dès 7h. Bye bye.